18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 18-20 bien ensoleillé. Coucou à Valérie Darmon qui va nous retrouver pour la météo. Au menu de ce samedi, 2 heures d'infos, un énorme week-end de sport, Paris-Roubaix en cyclisme, en foot Genesio qui quitte Lyon en claquant la porte et le 1000e Grand Prix de Formule 1. Je n'oublie pas les médias avec un magazine inédit pour les jeunes filles. Ça donne la pêche. Et des invités, Aurélien Taché, jeune député La République En Marche du Val d'Oise, décrit par la presse comme un franc-tireur. Il a été le premier député de la majorité à faire savoir qu'il s'abstient de voter la loi anti-casseur, une loi en vigueur depuis avant-hier. Et nous en sommes au 22e samedi de manifestation des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça change? Il nous dira. On va parler science avec Florence Porcel. Sa chaîne YouTube raconte les fusées ou le Big Bang le plus sérieusement du monde, mais c'est en même temps très très drôle. Vous saurez tout sur le voyage sur Mars prévu pour 2033 dans seulement 15 ans et la première photo d'un trou noir réalisé jeudi pour mon invité, c'est rien moins que du punk. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Et bien sûr, on peut réagir à tout moment en publiant un commentaire sur les réseaux sociaux, Twitter par exemple avec le hashtag Europe 1. 18h, bon week-end à tous et merci de nous écouter. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Vous le disiez, 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et situation confuse. Ce soir à Toulouse, principal point de manifestation, nous serons sur place. Le procureur de Nice, sommé par la chancellerie de s'expliquer sur l'affaire Le Guay, du nom de cette militante victime d'une grave chute lors d'une charge des forces de l'ordre. Lilian Thuram qui salue la décision de l'arbitre qui a interrompu le match Dijon-Amiens après des cris de singe proféré contre le capitaine de l'équipe Picard, c'était hier soir. Et puis à la fin de ce journal, l'hommage à Hubert, une grande voix d'Europe 1. Il vient de s'éteindre à 81 ans. Hubert, indissociable de l'émission mythique de la station. Salut les copains.
Europe 1. Et pour commencer, direction Toulouse.
Toulouse, point de rassemblement national pour ce 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Pas mal de tensions depuis le début de l'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre et une situation encore très confuse ce soir. Benjamin Peter, vous êtes sur place pour Europe 1 avec un flot de manifestants qui n'a cessé de grossir au fil des heures.
Oui, avec dès midi un peu plus de 2000 personnes qui très vite se sont retrouvées dans une nasse sur une allée du centre-ville, bloquée de toutes parts par les CRS qui progressaient méthodiquement. Ça a été très rapide. Pour Michel, les forces de l'ordre ont voulu mettre fin à la manifestation le plus rapidement possible. Lui arrive du Mans.
Parti à 9h hier soir, arrivé ce matin à 6h. Faut être là. Appel national, faut être là. On a commencé à manifester, puis la première chose qu'ils ont fait, ils ont gazé. À peine arrivé, on avait déjà gazé, on n'avait rien fait. Oui, ils voulaient que la manif s'arrête tout de suite, je sais pas. Les forces de l'ordre, on sent qu'ils ont la pression derrière, qu'on leur pousse le cul, que ça arrive plus vite. Pour l'instant, ça dure, ça durera.
Oui, effectivement, ça dure, puisque vers 15h, un nouveau cortège s'est formé à l'autre bout de la ville et on a vu jusqu'à 6000 personnes déferler. Et depuis, la situation, vous le disiez, est très confuse. Les manifestants repoussés à coups de gaz lacrymogène, de canons à eau, s'échappent par les petites rues, se retrouvent un peu plus loin. Tout le monde tourne en rond, finalement, ce qui donne lieu parfois à de violents affrontements dès qu'il y a contact, à des interpellations, à un peu de casse aussi, même si on est très loin de ce qu'on avait pu voir ici, notamment au début du mois de janvier. En tout cas, pour le moment, un calme relatif semble revenu, notamment parce que le canon à eau est immobilisé depuis une bonne demi-heure, bloqué sur un terre-plein central après une mauvaise manœuvre des policiers. Mais il reste en tout cas beaucoup de monde toujours dans les rues.
Benjamin Peter à Toulouse pour Europe 1, rassemblement aussi à Paris, assez clairsemé, place de la République à 14h, le ministère de l'Intérieur décomptait 7500 manifestants à travers la France, dont 1300 à Paris. Ce 22e samedi de manifestation, c'est aussi pour beaucoup des membres des forces de l'ordre, un 22e samedi de mobilisation avec 5000 CRS et gendarmes mobiles encore mobilisés sur le terrain, une mobilisation qui commence à peser dans les familles, comme en témoigne Claire, elle est femme de gendarmes mobiles et elle le dit. Il faut que ça s'arrête.
Notre vie depuis le 17 novembre, c'est l'angoisse. Samedi après samedi, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un drame ce samedi? C'est le stress permanent.
Votre mari, vous l'avez vu combien de week-ends depuis le 17 novembre?
Je l'ai vu un seul week-end en 5 mois. Ça, c'est terrible. On a l'habitude, hein, ils sont absents 250 jours par an. Mais déjà pas dans ces conditions, pas dans cette violence extrême. Et puis, en 5 mois, on a toujours des semaines de permission. Là, non. Là, on nous dit clairement, c'est pas possible. On peut pas vous laisser partir en vacances une semaine. Ou on peut pas le week-end, pendant que les gens normaux, entre guillemets, vont se promener, se balader. Ben non, moi, je suis devant les informations et c'est terrible.
Il est comment quand il rentre?
Il a vécu le 16 mars récemment. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. J'ai vu dans ses yeux que cette fois-ci, il a vraiment eu peur. Et voilà, ça m'a bouleversée de le voir comme ça. C'était la toute première fois que je voyais ce regard. Certes, c'est son métier de servir la France, mais aujourd'hui, c'est clair qu'ils sont le dernier rempart de la République. Et c'est pénible. Il faut que ça s'arrête.
Claire, femme de gendarme mobile qui se confiait à Pierre de Cossette.
Le procureur de Nice va devoir s'expliquer dans l'affaire Geneviève Le Guay.
Et c'est la chancellerie qui lui demande des comptes sur la manière dont il a géré ce dossier. Souvenez-vous, c'était le 23 mars dernier, lors du 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Une retraitée avait fait une grave chute quand elle avait été prise dans une charge pour disperser une manifestation interdite. Le magistrat avait avancé plusieurs versions. Alors pourquoi, Pierre de Cossette, la chancellerie veut-elle des explications ?
Eh bien parce que depuis le début de l'affaire, Jean-Michel Prêtre, magistrat de 60 ans, s'est distingué par une gestion malheureuse, pourrait-on dire, du dossier. D'abord, lui, procureur assez tourné vers la communication, ce qui est habituellement assez apprécié, est allé un peu vite en besogne quand 48 heures après les faits, lors d'une conférence de presse, il affirme avec certitude que ce n'est pas un policier qui a poussé la septuagénaire avant de se raviser 4 jours plus tard. Sur le plan pénal, ça ne changera pas forcément les choses. Au demeurant, Jean-Michel Prêtre a choisi de passer la main à un juge d'instruction, mais cela a nourri les soupçons de partialité chez la militante d'attaque et ses soutiens. D'autant que le procureur n'a pas vu de problème par ailleurs à ce que la commissaire de police qui dirige le service qui enquête sur cet incident soit la compagne du commissaire qui sur le terrain avait donné l'ordre de charger. Une succession de maladresses à tout le moins. L'enquête versant policier devrait échoir finalement à l'IGPN, la police des polices, et le procureur général d'Aix, donc le supérieur du procureur de Nice, a saisi la cour de cassation qui doit se prononcer sur un dépaysement du dossier ailleurs en France. En attendant, et à la demande du ministère de la Justice, ce procureur général va donc convoquer dans les jours qui viennent Jean-Michel Prêtre pour recueillir ses observations. Tout cela remontera à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui décidera s'il y a des suites à donner ou non.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
À suivre, condamnation unanime après des cris de singe proférés contre le capitaine Damien en Ligue 1 hier soir à Dijon. La rencontre a été interrompue et Lilian Thuram salue cette décision d'avoir interrompu le match.
Il est 18h08, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Un match interrompu hier soir en Ligue 1 après des cris racistes.
Des cris de singe proférés par un supporter de Dijon contre le capitaine Damien. La scène s'est déroulée sur la pelouse du stade Gaston Gérard et le défenseur Prince Guano a décidé de quitter la pelouse en alertant l'arbitre, en lui demandant d'arrêter le match. Le supporter a été identifié, placé en garde à vue. Le club de Dijon a porté plainte. Et ce soir, l'ancien champion du monde, Lilian Thuram, qui regrettait récemment l'attentisme du monde sportif, salue la décision de l'arbitre d'interrompre la rencontre.
Ben écoutez, c'est très 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 important. Arrêter, ça veut dire signifier qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec l'esprit du football. Parce qu'en règle générale, lorsque vous regardez les matchs, notamment en Italie, eh ben, on fait comme si on n'entendait pas. Les présidents, après le match, disent « Non, je n'ai pas entendu. » L'arbitre dit « Je n'ai pas entendu. » Et je pense que c'est une très bonne chose. Et il faut féliciter l'arbitre, il faut féliciter les deux équipes, justement, d'avoir pris conscience qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Et surtout, dire que nous ne sommes pas d'accord en tant que sportifs et en tant que société, nous ne pouvons pas, je dirais, cautionner ce genre de choses.
Lilian Thuram avec Julien Froment. Le domicile de la marathonienne Clémence Calvin, suspectée d'avoir voulu éviter un contrôle antidopage au Maroc, perquisitionné. C'était hier après-midi à Martigues. Aucun produit dopant n'a été retrouvé, selon le procureur de la République de Marseille.
Et c'est une grande voix d'Europe 1 qui s'est éteinte cette nuit.
Hubert, 81 ans, voix emblématique de la station, les plus grands noms du showbiz qui étaient aussi ses amis, se sont succédés à son micro. Hubert, indissociablement lié à une émission mythique d'Europe 1. Pierre Herbulot, salut les copains.
À émission extraordinaire, animateur extraordinaire, facilité à l'antenne, humour, répartie exceptionnelle. Hubert, c'était tout ça à la fois, sans oublier un culot monstre, comme ce jour d'octobre 1977, quand il réveille Michel Sardou le jour de son mariage.
Allô ? Michel, mon petit gars. Non, je vais pas non plus te changer quelque chose dans ta vie, mais je te rappelle que tu te maries dans 40 minutes.
Dans 40 minutes ?
Oui, tu te maries dans 40 minutes, mon petit gars.
Je sais pas, pourquoi personne m'a réveillé ?
Allez, à tout de suite.
Des moments de radio, des souvenirs inoubliables aussi pour l'animateur, c'est ce qu'il raconte beaucoup plus tard en 2006 au micro de Marc Tronchot.
Ça a été évidemment un moment de bonheur, quoi. Ouais. On parle la même langue que les gens qui nous écoutent. Et puis on a le bonheur d'être toujours parmi les premiers à avoir tout ce qui arrive, tout ce qui se crée, tout ce qui se passe dans la musique. Par exemple, j'étais dans le bureau de Lucien Maurice. Et André Pousse arrive avec un petit gars et il dit, le petit là, je l'ai trouvé au Sacré-Cœur hier, il est vraiment bien, tu devrais écouter Lucien. Il s'appelait Michel Bolnareff. Ça commençait comme ça.
Dans le vent, Musicorama, Radio 2, Les meilleurs de la nuit, toutes ces émissions sont marquées de son empreinte, celle d'un novateur. Europe Stop, le grand jeu des autocollants sur les voitures, c'est lui. Le principe même du disque jockey en France, c'est encore lui.
À mon village, au bout du monde, c'est justement la chanson que chante Joe Dassin, qui est décidément un sociétaire des hit-parades en ce moment. Bravo Joe. Allez, à toi.
Le vent s'engouffre.
Tout le monde connaissait le prénom d'Hubert Wayaf, son nom par contre personne. D'après la légende, un animateur lui aurait demandé de le laisser tomber, trop compliqué. Qu'à cela ne tienne, c'est Hubert tout court qui est devenu l'une des plus grandes vedettes de la radio française.
Bonsoir à toutes, bonsoir Anne. Nos émissions sont terminées pour l'instant. Guy Vial vous réveillera tout à l'heure à 6h. Anne Pérez et Hubert Wayaf vous souhaitent une bonne nuit, ainsi que toute l'équipe d'Europe numéro 1.
Voilà pour cet hommage de Pierre Herbulot à Hubert qui fermait l'antenne d'Europe numéro 1. C'était en 1963 sur une musique composée par, excusez du peu, Maurice Jarre. Et bien sûr, ce soir, toute la maison Europe 1 pense très fort à la famille d'Hubert et à ses proches.
C'était le journal de Fabienne Lemoyal. Merci beaucoup Fabienne.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
La météo, c'est signé par vous, Valérie Darmon. Demain, le temps évolue peu dans nos régions.
Eh bien Philippe, au nord de la Seine, jusqu'en Bourgogne, vous passez la journée sous un ciel variable avec quelques flocons, toujours en début de matinée si vous habitez dans les Ardennes, et quelques gouttes sur le Jura en fin de journée. Des côtes normandes à l'Occitanie jusqu'en Provence, en passant par le bassin parisien et le massif central, vous profiterez toujours, comme aujourd'hui, d'un soleil généreux. Entre la Bretagne et l'Aquitaine, ce sera un tout petit peu plus voilé en revanche, en raison du rapprochement d'une nouvelle perturbation sur l'Atlantique. Et c'est entre le sud des Alpes et la Corse que vous êtes les moins favorisés, encore et toujours, avec le développement des cumulus menaçant l'après-midi et un risque de chute de grêle ponctuelle. Et puis du Roussillon à la Provence, le ciel est bien bleu, dégagé par le Mistral et par la Tramontagne. Les températures ne remontent pas encore, il faudra attendre mardi pour que ce soit le cas. Et les maximales oscilleront entre 9 à Saint-Brieuc et 19 à Perpignan.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous, Jean-François Pérez, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
On va commencer par le football et le départ annoncé de Bruno Genesio de son poste d'entraîneur à Lyon.
Oui, une conférence de presse convoquée à la hâte tout à l'heure, au lendemain de la défaite à Nantes. 15 minutes d'échange, chrono en main. Après 3 ans et demi passés à la tête de l'OL, Bruno Genesio passera donc la main en fin de saison. Le technicien a souhaité officialiser son départ pour apaiser un climat tendu aussi bien dans le vestiaire que dans les tribunes qui réclamaient sa démission.
J'espère que cette décision permettra à l'équipe d'évoluer dans un climat beaucoup plus serein et beaucoup plus favorisant à faire de bonnes performances, notamment à domicile. Ce que j'espère aussi maintenant, c'est que chacune des entités du club assume ses responsabilités sur le terrain, en dehors du terrain. Je compte sur tout le monde pour qu'il y ait une union sacrée autour de l'équipe. Parce que l'important, c'est que l'équipe soit en Champions League pour tout le monde.
Voilà, Bruno Genesio qui a également précisé qu'il prendrait une période de repos après la fin de la saison. Pas de nouveau club en perspective, mais il n'exclut pas de rester à Lyon, pourquoi pas un autre poste.
Et Lyon qui espère accrocher la Ligue des Champions, mais qui se trouve désormais sous la menace de Saint-Etienne ou de Marseille, qui l'eût cru?
Oui, Marseille qui est, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées hein, pour l'OM. L'OM ouais. Qui accueille Nîmes en ce moment, c'est au stade Vélodrome, devant beaucoup de monde. Bonsoir Yann Terrou.
Bonsoir Jean-François, bonsoir.
La deuxième mi-temps vient de débuter, pas terrible hein, pour l'instant.
Oui, exactement. Et de là à ce que les Lyonnais puissent se faire du souci, il y a vraiment un pas, un gouffre, j'ai envie de dire. 58 minutes de jeu 0-0, des Marseillais ennuyeux sur l'ensemble de cette rencontre, qui ont inscrit un but signé Radonjić mais qui a été refusé après examen de la vidéo. Et en face, des Nîmois performant sur leur couloir droit, notamment opportunistes, on peut le sentir, qui pourraient, pourquoi pas, eh bien, trouver une solution. En tout cas, pour l'instant, Marseillais dominé dans les têtes. 0-0, 58e.
Et en plus, Mario Balotelli s'est blessé en premier.
première mi-temps. Il a été remplacé. Donc, vraiment pas terrible pour les Marseillais pour l'instant. Saint-Etienne, on en parlait. Saint-Etienne, l'actuel quatrième, recevra Bordeaux demain et pourra revenir, lui, à 3 points de Lyon. Les matchs à 20h avec Lionel Rosso, Europe 1 Sport, évidemment. Caen, 19e, reçoit Angers. Guingamp, la lanterne rouge, se déplace à Strasbourg. À suivre également Monaco, Reims. On parlera aussi de foot féminin ce soir avec un match au sommet du championnat de France. Lyon accueille le Paris Saint-Germain. Les Lyonnaises sont les tenantes du titre depuis 12 ans. Les Parisiennes sont la force montante en quelque sorte. Les deux équipes sont à égalité. Les gagnantes seront quasiment assurées du titre. On sera en direct du Parc Güell ce soir.
C'était le journal des sports de Jean-François Pérez. Merci beaucoup Jean-François. À tout à l'heure.
Europe 1.
À suivre, premier week-end après la promulgation de la loi anti-casseurs. Et mon prochain invité s'était au départ opposé au texte. Seulement voilà, c'est un député La République En Marche. Aurélien Taché, figure de l'aile gauche du parti, continue de cultiver sa différence. Il sera avec nous dans un instant.
On retrouve Philippe Blondel pour la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, 18h19. On va parler politique, Philippe.
Avec mon premier invité, bonsoir Aurélien Taché.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise. Vous êtes décrit par la presse comme l'enfant terrible de la majorité. Vous représentez l'aile gauche du parti du président. Et vous avez d'ailleurs créé un laboratoire d'idées. On va en reparler. Vous êtes également connu pour avoir été le premier député de la majorité à faire savoir qu'il s'abstiendra ou s'abstiendrait de voter la loi anti-casseurs, ce que vous avez fait. La loi est en vigueur depuis avant-hier. On en est au 22e samedi des Gilets jaunes. Est-ce que vous en avez vu les effets dans les manifestations d'aujourd'hui ?
Écoutez, je crois que comme vous, ça ne m'a pas frappé, non, effectivement. Et que la meilleure manière, de toute façon, à mon avis, de ne plus avoir de casse, c'est que les gens n'aient plus de bonnes raisons d'aller dans la rue. Ouais. Donc la loi anti-casseur, elle apportera des choses sur l'aspect notamment casseur-payeur, c'est-à-dire que les gens qui seront arrêtés devront payer leurs dégâts, et ça c'est très bien, mais ce n'est pas de toute façon comme ça qu'on réglera le fond du problème.
Alors la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour toute personne qui cause un trouble à l'ordre public en dissimulant son visage. Aujourd'hui, dans les manifestations à Toulouse, des dizaines de personnes avaient le visage dissimulé. Est-ce que la loi est appliquée ou pas ? Est-ce qu'ils vont tous se faire arrêter ?
Alors, je le souhaite. Hein. Voilà, on a cette loi maintenant, mais vous savez que la police est assez, comment dire, elle a du travail en ce moment. Donc, est-ce qu'ils arriveront à arrêter tout le monde ? Ça, je ne peux pas le dire, moi, à votre antenne, mais je le souhaite, parce qu'effectivement, on ne doit pas venir le visage complètement dissimulé quand on manifeste, sinon c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, effectivement, que ceux qui seront arrêtés parce qu'ils avaient une cagoule, s'ils ont cassé en plus, ils devront payer. Donc ça, c'est quand même des éléments importants et que les Français voulaient, réclamaient, parce que ce n'est pas normal. On en est quand même à des centaines de millions d'euros de dégâts avec ces manifestations depuis 22 samedi. Mais je le redis, à mon avis, l'essentiel est ailleurs. Le président de la République va s'exprimer la semaine prochaine et va dire des choses fortes pour qu'on puisse répondre à cette crise sociale et démocratique, parce que c'est d'abord ça qu'on vit. Il y a des casseurs, il y a des gens extrémistes dans ces manifestations, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui sont dans une forme de colère et à laquelle il faut pouvoir répondre.
Alors justement, puisque vous en parlez, après 2 mois de grand débat, le chef de l'État doit prendre la parole. Selon vos informations, ça sera quand ?
Écoutez, je ne sais pas, en début de semaine.
Dans lundi ou mardi, alors ?
Moi, je parie sur mardi, mais après, c'est personnel.
D'accord, vous pariez sur mardi. Vous représentez l'aile gauche du parti du président. Vous avez d'ailleurs, créé un laboratoire d'idées avec l'avocat Jean-Pierre Mignard. Pour les gens qui ne parlent pas le jargon, c'est quoi un laboratoire ? En quoi ça consiste ? Si c'est à trouver des idées, c'est le rôle d'un parti. C'est quoi ce labo ?
Mais écoutez, vous savez, il y a des gens qui ont voté Emmanuel Macron au premier tour ou au deuxième tour, mais qui se disent encore de gauche. Pour certaines personnes, ça veut dire quelque
Pourquoi
chose. Mais parce que nous, on a plutôt dit et de droite et de gauche, ou ni droite ni gauche, ouais, selon les interprétations. Moi, je dis plutôt et de droite et de gauche. Et moi, dans le et de droite et de gauche, je suis plutôt le côté de gauche.
Ouais.
Voilà. Donc, on a besoin d'avoir un endroit où ces gens-là peuvent se retrouver pour proposer des choses, que ce soit des intellectuels, que ce soit des universitaires, des syndicalistes. On a manqué de ça, vous savez, pendant ces 2 premières années. Moi, ce que j'attends aussi pour les 3 prochaines années, c'est cette espèce de nouveau temps du quinquennat qui va s'ouvrir avec la prise de parole du président, c'est qu'on gouverne un peu différemment, qu'on soit un peu moins seul, qu'on soit mieux connecté à la société, qu'on ait vraiment dans tous les champs de la société des gens qui nous accompagnent, avec lesquels on peut réfléchir. Et ce laboratoire, il sert à ça. Proposer des idées avec des gens, voilà, qui se revendiquent d'une gauche démocrate, qui soutiennent Emmanuel Macron, qui n'ont pas forcément envie de s'engager en marche, parce que de toute façon, ils ne sont pas des militants politiques, c'est plutôt des gens de la société civile. Et donc, on peut avoir, avec Hyperion, que nous avons créé avec Jean-Pierre Mignard, un endroit où ces gens se retrouvent pour réfléchir et proposer des choses à la majorité pour les 3 ans à venir.
Hyperion, ça vient d'où ce mot ?
C'est le nom d'un titan grec, et ça veut dire celui qui est au-dessus. Voilà, on est très modeste avec Jean-Pierre.
Mais j'osais pas vous le dire. Vous êtes combien ?
On est pour l'instant une petite trentaine, mais ça a surtout vocation à rassembler des gens qui peuvent réfléchir sur des sujets précis, donc on n'a pas besoin d'être des milliers. Et puis après, on verra comment les choses évoluent. Mais dans un premier temps, on va essayer de produire notamment des propositions dans le cadre des élections européennes et de définir un peu mieux ce qu'est pour nous une gauche moderne et démocrate qui peut justement trouver sa place auprès d'Emmanuel Macron.
Est-ce que votre initiative ne vise pas un peu à contrecarrer l'activité des ministres dits de droite comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ? Ils sont les plus actifs dans les idées pour sortir du grand débat. Ce sont eux qu'on entend le plus.
Mais moi, je trouve ça très bien pour eux, mais du coup, j'ai envie de faire pareil, c'est tout.
Donc la réponse est oui.
C'est pas contrecarré, je trouve bien qu'ils le fassent. Je trouve bien que des gens de droite soient actifs dans la majorité, fassent des propositions qui peuvent venir plutôt de cette famille de pensée. Je trouverais bien aussi que des gens de gauche le fassent. Et donc, c'est pour ça qu'on lance cette initiative.
Comment vous voyez la sortie du grand débat ?
Écoutez, moi je crois qu'évidemment il faut des mesures fortes sur notamment le pouvoir d'achat, donc sur les retraites, il faut les réindexer très certainement, sur la question des mères célibataires, il faut faire des choses, donc tout ça est extrêmement important, mais surtout il faut vraiment donner le sentiment qu'effectivement on va gouverner un peu différemment, je le disais tout à l'heure, en étant à tous les niveaux mieux connectés avec la société, et puis donner un chemin aux gens. Moi, vous savez, ce que j'entends le plus sur le terrain, c'est on en a marre d'un peu de cette France du piston. On a l'impression que certains sont toujours favorisés par rapport à d'autres, qui peuvent mettre leurs enfants dans leurs bonnes écoles. Nous, quand on veut une place en BTS ou en IUT, c'est toujours fermé. Il faut avoir une lettre de recommandation.
Vous voulez dire, par exemple, c'est la femme d'un député qui va prendre la direction de la communication de la Française des Jeux.
Après, les cas particuliers comme ça, je pense qu'il faut. Voilà, moi, je ne connais pas du tout les choses.
C'est vous qui avez lancé le sujet.
Je suis sûr qu'elle est très compétente. Oui, mais je veux dire, je parle d'une manière générale.
Non, mais vous comprenez que ça puisse agacer.
En tout cas, il faut pouvoir expliquer, parce que c'est vrai que aujourd'hui, moi, ce que je ressens beaucoup sur le terrain, c'est ça. C'est les Français qui me disent, nous, on a le sentiment qu'à Paris, il y a des élites qui vivent une vie beaucoup plus facile que la nôtre, que vous, les élus, vous avez des privilèges. Ce thème-là d'une France, finalement, qui ne serait plus totalement ce thème de l'injustice, est très fort. Donc, il faut pouvoir répondre à ça. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais il faut engager des réformes. Il faut aider les gens à vraiment avoir le sentiment qu'ils vont pouvoir mettre leurs enfants dans les écoles qui leur donneront un avenir, à qui vont pouvoir se loger plus facilement, se déplacer plus facilement, que ce n'est pas plus facile pour certains que pour d'autres.
Sauf à plus en plein informé, vous faites partie des rares qui ne veulent pas abandonner la fiscalité écologique.
Alors écoutez,
pour quelle raison ?
Je ne dis pas exactement ça. Je dis que j'aimerais qu'on puisse la poursuivre, mais qu'on ne pourra le faire que si on taxe aussi les gros pollueurs, les grosses industries, le kérosène. Donc il faut mettre tout ça en
place.
Mais
ça, vous que c'est pas possible.
Moi, je pense que ça pourrait être possible.
Si vous taxez le kérosène en France, vu que les gens sont des avions, ils iront s'approvisionner dans un autre pays que la France.
Oui, mais vous pouvez avoir un système. Par exemple, les Suédois ont mis une espèce de contribution au décollage. Quand vous montez dans un avion, c'est pas le carburant, mais le passager de l'avion paye une petite taxe sur son billet, si vous voulez. Donc on peut trouver des choses comme ça. On fait bien sur les GAFA quelque chose d'exemplaire. On est en train de taxer Google, ces géants du net en France pour ensuite le faire au niveau européen.
Très difficilement, on avait reçu justement un polytechnicien ici qui nous racontait que c'était très difficile, quand bien même la mesure serait vertueuse, on taxait le chiffre d'affaires au lieu de taxer les bénéfices, qui n'était non plus pas la meilleure méthode.
En tout cas, la France montre un chemin et moi je trouve que c'est important, il va y avoir des élections européennes, on veut une Europe qui protège, montrons l'exemple en France.
Oh, à propos de vos idées classées très à gauche, certaines avaient même fait sursauter l'Obs, qui est de manière de gauche il en est, à propos de la loi de finances, c'est en octobre 2018, vous aviez proposé d'offrir un crédit d'impôt aux personnes et hébergeant des réfugiés, qu'est devenue cette proposition ?
Alors écoutez, cette proposition a été votée par mes collègues de La République En Marche en première lecture, mais les sénateurs, qui sont toujours, comme on le sait, de grands progressistes, se sont empressés de la supprimer, donc elle n'a pas pu être mise en application. Mais effectivement, je trouve que c'est une belle idée. Moi, vous savez, je suis élu à Cergy, une ville populaire, et les gens, ils veulent aider. On a, nous, beaucoup de migrants, on a beaucoup de difficultés sociales, et les gens disent, moi, je suis prêt à aider quand même si j'ai peu d'argent, mais faites un petit geste, que l'État m'encourage. Vous comprenez qu'on n'a pas des moyens énormes, donc pour être solidaire, il faut que vous nous encouragiez.
Aurélien Taché, le mois dernier, vous êtes fait remarquer par toute la France en comparant à la télé le port du voile pour les petites filles au port du serre-tête. Tollé, polémique, vous avez été recadré par votre groupe. Quel enseignement politique avez-vous tiré de cette polémique ?
Il faut faire effectivement très attention sur ces sujets. Moi, je m'exprime souvent sur les sujets relatifs à la religion en France. On a une histoire particulière par rapport à ça. C'est toujours extrêmement abrasif. Donc, je l'ai dit, je regrette d'avoir fait cette comparaison. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'après tout, il n'y a pas, parce qu'une famille est musulmane, à considérer qu'on aurait plus à s'ingérer dans l'éducation des enfants que pour une famille catholique. C'est ça que je veux dire. Et après, l'école doit faire son travail. Ces petites filles, elles choisiront de garder leur voile ou leur serre-tête ou non.
Non, voilà. Ma question était, est-ce que vous-même, vous avez dit, faut que je fasse gaffe quand je parle ?
Oui. Mais en même temps, j'ai pas envie de perdre ma liberté de ton non plus. Alors c'est le prix à payer pour parfois dire des choses telles qu'on veut les dire.
Il y a une très belle citation de vous. Vous avez dit « J'étais anarchiste à 15 ans, socialiste à 25, macroniste à 35 ». Vous serez à droite à 45 ans ?
Non, vous n'avez pas fini la citation, mais je n'ai jamais changé d'idée, j'ai dit. Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut retrouver dans
des idées on peut être macroniste et anarchiste en même temps.
J'aurais besoin de plus de temps pour vous l'expliquer.
Vous direz ça au Black Blocs, vous reviendrez une prochaine fois. Merci beaucoup Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. À suivre, une folle semaine pour l'espace. L'humanité a eu la certitude de l'aspect des trous noirs cette semaine. Et si désormais on allait sur Mars ? C'est le pari très sérieux de la NASA. 3 missions robotisées dans les 15 prochaines années. Il n'y a pas que la NASA, il y a les Russes et les Chinois. On en parle avec Florence Porcel. Vous la connaissez si vous suivez sa chaîne YouTube scientifique. Magnifique chaîne, à tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Philippe Vandel. Bienvenue dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 18h31, Philippe.
Oui, et c'est l'heure du rappel des titres avec Chanel Petit. Bonsoir Chanel.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Toulouse, point de rassemblement national pour ce 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Pas mal de tensions depuis le début de l'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Des rassemblements également à Rouen, à Lille, à Montpellier ou encore à Amiens. À 14h, le ministère de l'Intérieur décomptait 7500 manifestants à travers la France, dont 1300 à Paris. C'est globalement un peu plus que la semaine dernière. Eux voulaient défendre la filière automobile en Aveyron. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées cet après-midi à Aunelle-Château, près de l'usine Bosch qui fabrique des pièces pour moteurs, site menacé par le déclin du diesel qui est tombé à 40% des ventes automobiles l'année dernière en France contre les trois quarts en 2012. Condamnation unanime après les cris racistes proférés contre le capitaine de l'équipe de football d'Amiens hier soir à Dijon. La rencontre a été interrompu quelques minutes. Décision inédite en Ligue 1. Sur Europe 1, Lilian Thuram salue cette décision. Il demande plus d'intransigeance dans le monde du football.
Merci beaucoup Chanel. À tout à l'heure pour votre journal complet. Il sera 19h.
Europe 1.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et la météo, c'est pas seulement avec Daniel, c'est également avec vous Valérie Darmon. Demain, les températures ne remontent pas.
Et oui, entre les Alpes du Sud et la Corse, il faudra encore s'attendre à quelques averses localement orageuses sous forme de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Sur les frontières de l'Est et sur Rhône-Alpes, le temps qui sera très nuageux le matin avec quelques gouttes ou quelques flocons près des frontières. Et dans l'après-midi, ces nuages qui laisseront progressivement passer quelques éclaircies. Ailleurs, le soleil sera toujours généreux et autour de la Méditerranée, Mistral et Tramontagne se lèvent. Le matin, les gelées entre 0 et moins 4 seront fréquentes sur le nord, sur le centre de la France aussi. Ailleurs, les minimales oscilleront entre 1 et 8 degrés jusqu'à 12 près de la Méditerranée. Et les maximales, 8 à 13 sur la moitié nord, 12 à 16 au sud, jusqu'à 19 sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Bonne fin de journée avec Europe 1. Qui a dit que la science était ennuyeuse ? En tout cas, pas votre invité Philippe Vandel.
C'est la couverture du magazine Le Point. Le voyage sur Mars, c'est du sérieux. 3 missions robotisées sont annoncées pour l'année prochaine, en 2020. Et surtout, la NASA a annoncé son intention d'y envoyer des hommes en 2033, c'est-à-dire dans moins de 15 ans. Bonsoir Florence Porcel.
Bonsoir.
Vous êtes vulgarisatrice scientifique. Je voulais vous entendre, vous, pour deux raisons. Car votre chaîne détonne dans le monde scientifique. Elle est sérieuse, mais également drôle. Et c'est également parce qu'en 2014, vous aviez postulé pour les sélections du projet Mars One. Vous faisiez partie des 1000 finalistes, alors qu'il y avait au départ 200 000 candidats pour aller sur Mars. Pour cette expérience-là, finalement, vous n'avez pas été retenu.
Non, hélas, effectivement, oui, j'ai fait partie de la shortlist des 600 derniers. Mais je me suis viandée à la dernière étape des sélections. Donc malheureusement, je n'ai pas fait partie des 100 qui étaient toujours en lice il y a encore très peu de temps.
Alors, des hommes sur Mars en 2033, des hommes et des femmes, est-ce que ça vous fait rêver ?
Bien sûr, ah bah bien sûr. Moi, je suis de cette génération qui n'a pas connu les hommes sur la Lune. Et voilà. Et donc, la prochaine étape, évidemment, c'est Mars. Et moi, j'aimerais beaucoup voir des hommes et des femmes marcher sur Mars de mon vivant. Donc, j'ai encore un peu d'espoir. Mais malheureusement, ça fait des dizaines d'années qu'on nous promet ça pour dans 30 ans. Et résultat, on ne voit toujours rien arriver. Donc, c'est hyper frustrant pour moi. Mais j'espère bien que ça va arriver quand même.
Sauf que là, on le promet pour dans 15 ans. Pour aller sur Mars en 2023, la NASA propose de poser à nouveau des hommes d'abord sur la Lune. C'était prévu pour 2028, mais Mike Pence, le vice-président américain, a avancé la date à 2024, ce qui serait au passage la dernière année de mandat de Trump s'il était réélu. D'où ma question. Des hommes sur Mars en 2033, selon vous, est-ce que c'est sérieux scientifiquement, financièrement, ou est-ce que c'est une annonce destinée d'abord à l'électorat ?
C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que la NASA veut vraiment aller sur Mars, en fait, que le monde entier veut vraiment aller sur Mars. Maintenant, il faut des budgets considérables et il y a des tas de choses qu'on n'a pas encore réglé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fusée, on n'a pas de vaisseau, on ne sait pas comment se protéger des rayons cosmiques. Bref, il y a des tas de questions qui restent encore à régler. Et pour ça, c'est possible hein, de régler tous les problèmes. Mais il faut de l'argent, il faut énormément d'argent. Et il faut que les agences spatiales du monde entier s'y mettent tout ensemble, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
L'argent, il existait en 69, quand les hommes se sont posés sur la Lune. À l'époque, le budget de la NASA, c'était 0,7% du PIB, le produit intérieur brut américain. Et maintenant, c'est 0,1%. À l'époque, relativement, ils avaient 7 fois plus d'argent. Donc l'argent existe, il suffit juste de décider de le mettre sur ce programme-là.
Ah ben bien sûr, mais c'est une volonté politique, bien évidemment, ce n'est qu'une volonté politique. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, c'était dans un contexte de guerre froide, ouais. Donc il fallait absolument être le premier. Donc c'était la guerre avec l'URSS. Aujourd'hui, la situation est évidemment complètement différente, et tant mieux hein, qu'on soit plus dans une guerre froide. Donc la volonté politique, évidemment, elle est un peu moindre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On a exploré l'espace, on a fait des tas de missions scientifiques, mais c'est vrai que pour les missions habitées, pour l'instant, elles se réduisent à la Station Spatiale Internationale qui est à 400 km en orbite autour de la Terre. Donc c'est un peu frustrant pour l'exploration habitée.
Je vais expliquer un peu la technique. Le rover Curiosity, le robot qui roulait sur Mars, faisait une tonne. Mais pour poser un équipage de 6 personnes, il faut poser 30 à 40 tonnes. On ne sait pas faire, on n'a même pas l'engin, on ne sait même pas comment le construire.
Ah non, on ne sait pas faire. On n'a pas l'engin, on n'a pas le lanceur. On n'a pas tout ce qu'il faut pour protéger la vie des astronautes et être sûr qu'ils arrivent en un seul morceau sur Mars. Déjà que pour poser une sonde, c'est compliqué. Donc vraiment, il y a une quantité astronomique, sans mauvais jeu de mots, de problèmes à régler et on n'y est pas encore. Et donc, comme il n'y a pas le budget, on ne va pas y arriver tout de suite.
Alors, le voyage dure 2 ans et demi, schématiquement de 7 à 9 mois à l'aller, de 7 à 9 mois au retour, presque 1 an et demi sur place. On prévoit des équipages de 6 personnes. J'ai une question cruciale. Comment va-t-on composer l'équipage? Est-ce qu'il sera mixte des hommes, des femmes avec des couples? Mais que faire en cas de crise de couple ou d'adultère? Ou alors on envoie seulement des célibataires? Et si des couples se forment pendant le voyage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie que des hétéros, que des homos, les deux? La question est trop importante pour que la NASA n'y ait pas réfléchi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui est sûr, c'est que les équipages seront mixtes. On ne peut pas se permettre d'envoyer que des hommes ou que des femmes. Ça me paraît complètement ahurissant, surtout si c'est une mission qui propose des astronautes du monde entier. Donc a priori, ce sera mixte. Maintenant, effectivement, la question de la sexualité se posera. J'ai eu l'occasion de parler à un astronaute d'Apollo 15 qui a dit, mais moi, si on m'avait proposé d'aller sur Mars à 30 ans, clairement, j'aurais pas pu parce qu'il m'aurait fallu une vie sexuelle et voilà, ça aurait été compliqué.
Ah ouais.
Donc vraiment, la question se pose. Moi, j'ai essayé d'y répondre dans une bande dessinée. J'ai choisi un équipage mixte avec 6 personnes toutes bisexuelles et qui étaient toutes amants et amantes les unes avec les autres. Donc voilà, la question se posait pas.
Tout le monde couchait avec tout le monde.
Tout le monde couchait avec tout le monde. Donc du coup, ça règle le problème de l'adultère ou de ce genre de choses ou de la jalousie, parce qu'ils se connaissent tous déjà intimement et qu'il n'y a pas vraiment de couple. Donc voilà, ça règle les problèmes et les conflits. Maintenant, j'en ai parlé à des gens qui réfléchissent à constituer des équipages et ils m'ont dit que c'était une idée peut-être un peu trop progressiste. Il faut dire que ma bande dessinée se passe en 2080, donc voilà, j'étais un petit peu en avance. Donc voilà, mais je ne sais pas exactement ce qu'en pensent les agences spatiales et s'il y a vraiment une réflexion là-dessus. Mais de toute façon, il faudra réfléchir à ça.
On va changer de dimension. Mercredi, pour la première fois de l'histoire de l'astronomie, une équipe de scientifiques a révélé la véritable image d'un trou noir. En quoi cette nouvelle est-elle une nouvelle scientifique de premier plan?
C'est extraordinaire. Déjà, c'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut voir un trou noir directement. On a une image. Ensuite, c'est un exploit technique absolument ahurissant, puisque ce trou noir, il se trouve à 54 millions d'années-lumière de nous. Mmh. Et il est tellement, on le voit tellement petit depuis la Terre que c'est comme si on prenait une photo d'un grain de moutarde qui se situerait à Washington depuis Bruxelles. Donc l'exploit est humain, technique, scientifique. C'est vraiment, c'est incroyable cette image.
Dans votre dernier livre qui s'appelle « Les Big Secrets de l'Univers », vous dites: les trous noirs, leur centre, leur singularité, c'est un phénomène punk. Qu'est-ce que ça a de punk, un trou noir?
Ça a de punk que, en fait, à l'intérieur d'un trou noir, le temps s'arrête. Donc voilà, donc la philosophie no future, c'est ça. C'est à l'intérieur d'un trou noir, le temps et l'espace deviennent complètement absurdes. Et effectivement, dans la singularité, le temps s'arrête, il n'y a plus de temps.
Merci beaucoup Florence Porcel, vulgarisatrice scientifique. Votre dernier ouvrage paru, ce sont Les Big Secrets de l'Univers. La préface est de Hubert Reeves, excusez du peu, c'est chez Dunod. Et votre chaîne YouTube porte votre nom, Florence Porcel. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans les manuels de CP, 70% des personnages qui font la cuisine sont des femmes. Et parce que les stéréotypes s'attaquent à la racine, Elisabeth Roman a lancé le magazine Chica, dédié aux petites filles. Elle explique tout dans un instant.
18h42, c'est l'heure de parler médias avec vous, Philippe Vandel.
À l'école, dans les manuels de CP, les femmes représentent 40% des personnages et 70% de ceux, donc de celles, qui font la cuisine. Mais seulement 3% des personnes qui occupent un métier scientifique. Et ceci a des conséquences. Une étude américaine montre qu'à 5 ans, les filles pensent qu'elles sont aussi brillantes que les garçons, mais à 6 ans, elles pensent qu'elles sont moins brillantes que les garçons. Bonsoir Elisabeth Roman.
Bonsoir.
Vous avez été rédactrice-chef du magazine Science et Vie Découverte pour les 7-12 ans. Et désormais, vous lancez un magazine d'un genre nouveau, ça s'appelle Chica. C'est quoi l'idée de base de Chica ?
Ben, c'est tout simple, Chica, c'est le premier magazine d'empowerment pour les petites filles de 7 à 12 ans.
En clair, ça veut dire quoi ?
Alors, empowerment, c'est un mot qu'on peut aussi traduire par empouvoirment, qui n'est pas très joli, mais qui est de plus en plus utilisé. Ça signifie simplement qu'on devient la personne qu'on doit être sans écouter aucune des injonctions extérieures, qu'elles soient familiales ou sociétales.
À supposer, par exemple, quand on est une petite fille, pour reprendre le chiffre que je venais de donner, que les filles sont moins brillantes que les garçons.
Oui, enfin, c'est faux, ça, on le sait. Hein. Mais elles pensent qu'elles le sont à un moment donné parce que, par exemple, elles pensent qu'elles sont moins bonnes en sciences.
Ouais.
Donc ça donne au final 30% de femmes scientifiques, alors que le cerveau d'un homme ou d'une femme, c'est pareil. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait moins de femmes scientifiques que d'hommes scientifiques.
Donc c'est un problème de confiance en soi.
Un problème de confiance en soi et puis un problème d'injonction culturelle qui, dès le plus jeune âge, on range les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Donc les filles vont aimer le rose, elles seront plus calmes, elles aimeront la lecture.
Les filles ne sont pas plus calmes ?
C'est ce qu'on leur dit.
Et c'est pas vrai ? C'est de l'inné ou c'est de l'acquis ?
Non, c'est-à-dire, on s'est rendu compte, par exemple, qu'un bébé fille, on ne le touchait pas de la même façon qu'un bébé garçon. On va être beaucoup plus doux avec un bébé fille qu'avec un bébé garçon. On va parler d'une façon beaucoup plus douce avec une fille, qu'à un garçon. Donc voilà, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Il n'y a pas de raison qu'une fille soit plus calme qu'un garçon. Elle peut avoir les mêmes... le même caractère ou avoir des... Enfin, il n'y a pas de rangement à avoir, quoi.
Donc, vous voulez dire que ce que les parents constatent parfois, ce n'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Et même si ça ne vient pas de la famille, ça peut venir de l'école, par exemple.
Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Des lectures, de ce qu'on voit à la télé, des films, de toute la société extérieure, des publicités, etc.
Vous dites vouloir offrir une alternative à l'injonction du rose. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le rose ?
Rien du tout, on peut aimer le rose si on veut, la seule
chose...
C'est
quoi le problème avec le rose ?
Le seul problème, c'est qu'il y a une vraie injonction, c'est-à-dire quand vous regardez, par exemple, les vêtements pour filles et les vêtements pour garçons, moi je suis née à une époque où ça n'existait pas. Moi je portais les vêtements de ma sœur et mon frère portait mes vêtements, et aujourd'hui, depuis les années 80, on a complètement coupé, par exemple, les vêtements en deux. D'un côté, vous avez les vêtements roses pour filles et de l'autre côté, les vêtements dits bleus pour garçons.
Ouais, mais alors, il se trouve que moi, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. J'ai l'impression de les avoir élevés pareil. Et quand ils étaient enfants, mon fils détestait le rose. Il le déteste toujours. Et ma fille ne voulait que du rose. Donc, d'où ça vient, ça ?
Ça vient de tout ce qu'on...
Parce que c'est pas moi qui leur ai inculqué ça.
Non, mais de tous les messages extérieurs. Il suffit que vous alliez dans une boutique, que vous achetiez un magazine, un livre, des jouets. Enfin, c'est pareil, les magasins de jouets ont longtemps été coupés en deux. Là, ça commence un peu à s'ouvrir. Mais il n'empêche qu'il y a des actions comme Marc du Rose, où effectivement, on voit bien qu'il y a toujours cette injonction de couleur.
Et les rasoirs, quand les filles s'enlèvent leur poil opaque, rasoir, il est rose.
Exactement.
Et il coûte plus cher.
Oui.
Concrètement, qu'est-ce qu'on va lire dans Chica ?
Alors, dans Chica, on va lire des histoires de femmes, des histoires de femmes du passé inspirantes, comme par exemple, on va parler dans le numéro 1 de Frida Kahlo, qui est une icône féministe, et c'était obligé pour moi d'ouvrir avec elle. Mais on va aussi parler avec des femmes inspirantes d'aujourd'hui, comme par exemple Amandine Henry, qui est la capitaine de l'équipe de football féminin.
Oui, mais ça, c'est obligé que ce soit une fille, vu que c'est du foot féminin.
Oui, mais bon, c'est important qu'on la mette en avant, c'est bien. Parce que aussi, il n'y a pas beaucoup de filles qui font du foot, pour plein de raisons. D'ailleurs, parce que par exemple, une géographe a fait une étude des cours de récré. Donc, c'est Edith Marie-Jol. Elle s'est rendue compte qu'au milieu de la cour de récré, les garçons jouaient au foot. Et puis, les filles étaient autour. Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas envie de jouer au foot. C'est parce que, quelque part, les garçons n'ont pas envie qu'elles jouent au foot. Donc, c'est important de dire aux filles aussi, si tu as envie de jouer au foot, tu peux jouer au foot.
combien de pages que le magazine n'existe pas encore, combien de pages, quelle diffusion, et ça va sortir tous les combien ?
Alors donc 62 pages pour l'instant, pour le début. Si ça fonctionne, on ouvrira beaucoup plus. Il sera distribué tous les trimestres et par abonnement uniquement. Donc ça a été un choix économique et écologique.
Ah bon, pourquoi ?
Bah parce que dans la presse écrite, en fait, quand on est en kiosque, on jette beaucoup de magazines parce que quand on en met 10 000, on en vend 3 000. Donc il en reste 7 000. On les met dans des entrepôts et puis un jour on les jette. Donc l'idée, c'était de servir les gens qui avaient vraiment envie de lire le magazine.
Alors, vous avez lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule. Vous en êtes où ?
Eh ben, on continue et là, on est à 45 000 euros et puis ça continue de monter tous les jours. Il reste 18 jours, je crois.
Ouais.
Donc, on est à plus de 220%. Donc, c'est un succès incroyable.
Donc, ça va se lancer ?
Ah oui, ça c'est sûr, ça va se lancer, oui.
Donc, les parents et les petites filles qui nous entendent et même les mecs, vous allez sur Ulule, vous cherchez Chika, T-C-H-I. Et vous envoyez la somme que vous pouvez. Merci beaucoup, Elisabeth Roman. Ça démarre quand, Chika ?
Le numéro 1, c'est en juin.
Merci beaucoup. Europe 1. À suivre, le replay télé d'Eva Rock et puis la planche apéro, direction le bassin d'Arcachon avec surtout pas d'huîtres.
Il est tout juste 18h50. On vous retrouve, Philippe Bandel, pour la seconde partie de notre page média.
Bonsoir Eva Rock.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors le samedi, c'est votre séance de rattrapage. Vous avez sélectionné pour nous à voir ou à revoir 3 programmes diffusés cette semaine à la télé. Quel menu du jour ?
Un documentaire et 2 fictions françaises, Philippe. Mardi soir, Laurent Delahousse proposait sur France 2 un documentaire intitulé « Narcotrafic ».
Alors j'ai vu que ça n'avait pas du tout marché.
Non,
1 million, ce qui est très peu pour Delahousse.
C'est très très peu. Et alors je vais vous dire pourquoi. En particulier, il y avait Capitaine Marlowe sur France 3. Plus de 7 700 000 téléspectateurs. Quand vous avez Capitaine Marlowe, c'est difficile de faire le poids en face. Et pourtant, le documentaire mérite vraiment le détour. Plongé dans le milieu des narcotrafiquants de la French Connection des années 50 au cartel mexicain contrôlé par El Chapo, le documentaire est passionnant, raconté comme un polar et rythmé par une galerie de personnages truculents. Il y est évidemment question de Pablo Escobar qui a eu le culot, écoutez bien, de construire la prison où il fut détenu. Description des lieux par un de ses tueurs à gages.
La cellule du patron avait une cheminée, une cuisine. Elle avait aussi une salle à manger, un bureau, une garde-robe, un jacuzzi. Il y avait des billards, un gymnase et il y avait même un terrain de football. Notre plus grand luxe, c'était un chef qui nous servait une nourriture délicieuse. Il y avait aussi beaucoup de femmes, des reines de beauté. Il y avait même une petite discothèque où on pouvait boire de la bière.
Vous avez bien entendu, c'était bien la prison dans laquelle était détenu Pablo Escobar. Chaque séquence de ce documentaire est aussi surprenante, au point que parfois, et c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire à cet excellent documentaire, quand on oublie que ce trafic de drogue a encore fait 30 000 morts, c'était en 2018, c'est à revoir sur France.tv.
Alors, est-ce que la série française que vous nous proposez, Eva, est aussi noire ?
Oh oui, et je commencerai par vous faire la fiche technique de cette fiction, dont la première partie était diffusée mercredi sur France 2. Réalisatrice, José Dayan.
De Capitaine Marlowe.
Exactement. Scénario, Emmanuel Carrère, adaptation d'un roman de Fred Vargas.
Wow.
Pas mal. Distribution, Jean-Hugues Anglade, Sylvie Testu, Corinne Maziero, Capitaine Marlowe,
ouais.
Ou encore Jacques Spiesser, musique, Benjamin Biolay. Alors autant vous dire que quand vous voyez l'affiche technique, vous êtes aussi impatient que moi, je pense, de découvrir quand sort La Recluse, c'est le titre de cette fiction, La Recluse étant une araignée à l'origine du décès de 3 hommes. Fiction très littéraire, écoutez cet échange entre Adamsberg, qui est joué par Anglade, et son patron.
J'ai pris rendez-vous demain au Muséum d'Histoire Naturelle avec un araignologue.
On dit un arachnologue. Et les araignées n'ont pas 6 pattes, mais 8. Et vous, commissaire, c'est dans le plafond que vous avez une araignée, et une punaise dans le bois de lit, et un rat dans la contrebasse. Vous vous êtes perdu dans vos brumes islandaises.
Fiction très étonnante, Philippe, parce qu'elle est très littéraire. Emmanuel Carrère a vraiment choisi de s'appuyer sur les mots de Fred Vargas. Et puis, il y a une forme de lenteur dans le récit. Mais en fait, le spectateur s'habitue, c'est servi par d'excellents comédiens, bien évidemment, et chaque séquence devient une sorte de scène théâtrale. Le tout sur fond d'intrigue insolite et de culture médiévale. C'est déroutant, certes, mais difficile de décrocher. C'est à revoir sur France.tv avant la diffusion de la seconde partie. Ce sera mercredi soir.
Et vous nous aviez promis, Eva, une autre série française.
Ouais, mais alors là, on change totalement de genre, hein, je vous préviens. Lundi soir, Canal Plus lançait sa nouvelle production, Vernon Subutex. Encore une adaptation.
Je l'ai vue.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'ai pensé que ça va moins vite que dans le livre, paradoxalement, oui. Et que plus ça va, j'ai vu les trois premiers épisodes, plus ça accélère et plus ça devient fort.
Et c'est exceptionnel, j'ai eu la chance de voir les 9 épisodes, je vous les recommande. C'est l'adaptation en série donc, des 2 premiers tomes du roman de Virginie Despentes, l'histoire d'une descente aux enfers, celle de Vernon, donc ancien disquaire.
Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé.
Vous êtes Monsieur Subutex Vernon, je vous demande de quitter les lieux.
J'ai eu un coup de cœur pour cette fiction qui a nécessité 4 ans d'écriture. La scénariste et réalisatrice Cathy Vernet a parfaitement réussi à extraire la substantifique moelle de l'œuvre de Despentes pour construire une narration qui est plutôt poétique, drôle, noire parfois, autour de ce personnage incarné magistralement par Romain Duris. Et dans chaque épisode, il y a 2 à 3 scènes fortes, comme celle que vous avez vu, Philippe, où Vernon, expulsé de chez lui, attend sous un abribus. Une femme un peu triste s'assoit à côté de lui, lui réclame une cigarette, il l'obtient et il lui offre en retour un morceau de musique qu'il possède dans son téléphone. « Vous m'inspirez ce titre », lui dit-il.
Elle est magnifique cette musique.
Ouais, Vernon Subutex à revoir sur le site de Canal+, si vous êtes abonné ou en VOD.
Et Eva Rock à retrouver la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant sur Europe 1, bientôt 19h, j'ai les papilles qui frétillent et vous aussi très certainement, c'est l'heure de la planche apéro Philippe Vandel.
La planche apéro avec Claire Vallée, bonsoir Claire Vallée.
Bonsoir.
Vous êtes chef du restaurant Ona, ça s'écrit O-N-A, c'est à Arès, près du bassin d'Arcachon. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Ona?
Alors Ona, ça veut dire origine d'un animal.
Vous êtes en restaurant vegan, ça veut dire pas de viande, pas de poisson, mais pas non plus de produits animaux, pas de lait par exemple.
C'est ça, pas de lait, pas de dérivés d'animaux, donc d'œufs et de crème et de beurre. Et également dans le textile, on n'a pas de cuir, etc. au niveau du restaurant.
Donc là, vous nous proposez une planche apéro. Et donc si j'ai bien compris, alors que le film Les Petits Mouchoirs 2 va sortir, on est à côté du bassin d'Arcachon, pas d'huîtres.
Alors je vais vous proposer un houmous à l'ail des ours.
C'est une plante?
C'est une plante, exactement.
Alors ça se fait comment?
Alors ça se fait avec des pois chiches. On va prendre plutôt des pois chiches qui sont cuits déjà préalablement. On va récupérer l'eau aussi. On va prendre aussi de la taïna, c'est-à-dire de la crème de sésame. On va en mettre 2-3 cuillères dedans, on va prendre 300 g de pois chiches, on met un demi-jus de citron et une demi-botte d'ail des ours. On mixe tout ça bien, bien fort dans un mixeur, pour que ce soit assez lisse. On le retourne et on le met dans un bol et on met un petit peu d'huile d'olive et de sumac. Le sumac, c'est une épice qu'on trouve au Liban et qui est un petit peu acide, qu'on parsème sur les houmous en général. Et on peut servir ça avec quelques troutons de pain, du pain libanais, enfin voilà, quelque chose dans le genre.
Et avec ça, on boit quoi? Parce que c'est l'apéro quand même.
C'est l'apéro. Écoutez, moi je vous propose un Château Klinklech. Ouais. C'est un vin d'Alsace qui se boit très frais, qui est un peu sur la pomme et c'est très intéressant avec.
D'accord. Dis donc, vous êtes une voyageuse, on est à côté de Bordeaux et vous proposez un vin d'Alsace.
Oui, j'adore voyager. Je fais des voyages tout le temps. Ça m'inspire.
Alors d'un mot, votre restaurant a une histoire, vous ne l'avez pas financé comme ça?
Non, je l'ai pas. J'ai financé le restaurant grâce à un crowdfunding, à des aides aussi de prêts d'honneur et de banque éthique. Et après, j'ai aussi eu 80 bénévoles qui sont venus faire les travaux sur le restaurant.
Et en échange de quoi?
En échange de ma bonne humeur, en échange de repas aussi que je dispensais, en échange aussi d'être toujours les bienvenus ici chez Ona. Voilà.
Vous savez quoi? C'était exactement le sens de ma question. Vous savez que les bénévoles, ils vont tous arriver là maintenant pour l'apéro.
Écoutez, allons-y.
Merci beaucoup. Je rappelle l'adresse. Vous êtes à Arès, près du bassin d'Arcachon. Ça s'appelle Ona, O-N-A. Vous êtes Claire Vallée. Et je précise que ce n'est pas simplement une lubie de bobo, comme certains pourraient le croire. Vous êtes déjà dans le Michelin et dans le Bottin Gourmand.
Exactement.
Bravo, merci. Bon appétit à tous et toutes.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de et avec Chanel Petit. A tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, si vous êtes de volant ou ailleurs, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. On disait qu'une femme mourait tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. C'est désormais tous les 2 jours. À croire que la société devient de plus en plus violente, mais également que la justice et la police ne prennent pas toujours la mesure du phénomène. Je recevrai pour en parler Nathalie Tomasini, avocate spécialisée dans les violences intraconjugales. Elle est également l'avocate de Jacqueline Sauvage, dont l'histoire avait ému la France entière. Et puis, ne manquez pas notre demi-heure culturelle.
Il sera question de famille, mais d'une manière beaucoup plus joyeuse, avec le retour d'une figure, un archétype, dont notre invité a inventé le nom Tanguy. Il s'agit évidemment d'Étienne Chatillès, dont le film Tanguy, le retour, cartonne sur les écrans. C'est bien simple, il est en tête du box-office et il sera avec nous.
Tout aussi simple, le petit message que vous pouvez publier sur Twitter, réagissez à l'actu avec le hashtag Europe 1. 19h, bon début de soirée à tous. Le journal, Chanel Petit, Philippe Andel.
Bonsoir Chanel.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Condamnation unanime après des cris de singe proférés contre le capitaine de l'équipe de football d'Amiens hier soir à Dijon. La rencontre a été interrompue quelques minutes. Décision inédite en Ligue 1. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Toulouse, capitale des Gilets jaunes aujourd'hui. Premier samedi de mobilisation depuis la promulgation de la loi anti-casseurs. Des tensions et des heurts. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Manifestation également à Saint-Denis ce matin en soutien à une enseignante visée par un pistolet à billes jeudi en plein cours. Elle n'a pas été blessée. Nous entendrons la colère d'un de ses collègues. Et puis arrêtons de donner à manger aux cygnes au bord des lacs, ça peut les tuer. La Ligue de protection des oiseaux tire la sonnette d'alarme.
Europe 1.
La FIFA demande la tolérance zéro contre le racisme dans le football après l'incident d'hier à Dijon.
Des cris de singe proférés par un supporter dijonnais, il visait le capitaine de l'équipe d'Amiens et défenseur Prince Guano qui a lui-même décidé de quitter la pelouse. Julien Fromont, en fait, ce qu'on peut retenir de cet incident, c'est cette décision inédite dans l'histoire de la Ligue 1 d'interrompre le match.
Oui, en effet, c'est une première dans l'histoire de la Ligue 1. Alors, dans les textes, depuis 2005, les arbitres de la Ligue peuvent arrêter temporairement ou définitivement un match en cas d'acte raciste. Dans les faits, ça n'a jamais été mis en application en France, mais aussi en Europe, et notamment en Italie, où on fait encore la sourde oreille. Pas cette fois-ci, l'arbitre Karim Abed et ses assesseurs ont écouté le capitaine d'Amiens, Prince Guano, et donc a demandé au speaker du stade de bien faire passer le message. Si ça se reproduit, on arrête le match. Une réaction à la hauteur de l'incident pour la présidente de la Ligue, Nathalie Bois de la Tour.
C'est important, parce qu'il faut vraiment montrer que les stades ne sont pas une zone de non-droit. Donc il y a des règles qui s'imposent, il y a des devoirs, il y a, comme dans la société, des choses qui n'y sont pas acceptables. Et le fait d'avoir pu avoir cette cohésion autour du capitaine, des arbitres, des délégués de match et de l'ensemble de l'équipe est exemplaire. Nous en sommes très, très heureux et très fiers.
Et du côté du club de Dijon, on prend aussi le problème très au sérieux. Le président Olivier Delcourt.
Le club, nous avons déposé plainte pour incitation à la haine raciale. On n'acceptera pas que ce soit au stade ou ailleurs. De toute façon, des propos racistes comme ça, c'est pas possible.
La Ligue de football professionnel et la LICRA vont porter plainte dans la semaine contre la personne interpellée. Le club de Dijon, malgré sa bonne foi, est tenu pour responsable de l'incident et sera aussi entendu par la commission de discipline de la Ligue mercredi.
Merci Julien Fromont du service des sports d'Europe 1.
Fin de manifestation tendue à Toulouse pour ce 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes.
Toulouse désignée cette semaine capitale nationale de la mobilisation. Il y a eu des heurts toute la journée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises pour contenir le cortège. Certains manifestants ont lancé des projectiles et des feux d'artifice. Benjamin Péter, vous êtes notre correspondant à Toulouse. Vous suivez la manifestation depuis le début et il y a toujours beaucoup de monde autour de vous.
Oui, on a vu jusqu'à 6000 personnes au plus fort de la mobilisation et beaucoup sont encore là, refoulés d'un point à un autre des boulevards à coups de lacrymogènes, de canons à eau. Et ça a commencé très tôt, dès midi et demi, juste après le départ de la manifestation, qui une nouvelle fois n'était pas déclarée. Les Gilets jaunes se sont retrouvés dans une nasse avec beaucoup de difficultés pour s'échapper. Pour Marie-Claire qui est dans la rue à Toulouse tous les samedis, la préfecture a voulu frapper fort.
Je pense qu'aujourd'hui, ils étaient là pour montrer que voilà, ils ne feraient pas de cadeaux. Surtout qu'ils ne vont pas nous arrêter comme ça, quoi. C'est le problème. Ça nous renforce d'avoir se bagarrer pour nos droits de manifester, nos droits de dire ce qu'on pense, le droit de vivre tout bêtement. Quoi. Et puis il y a ceux qui sont venus, ce week-end c'est spécial, puisqu'il y en a beaucoup qui sont venus de Paris, de Bordeaux, donc eux ils ne sont pas venus pour rien non plus. Et comme il fait beau, et bien, voilà, et je pense qu'on va leur montrer que même avec la répression, on reste sur place.
Alors la préfecture a dressé un premier bilan, il fait état pour l'instant de 2 blessés légers, 23 interpellations, des dégâts aussi, des vitrines, des abribus ont été brisés, beaucoup de poubelles incendiées. Et côté manifestants, même si les traits sont tirés, beaucoup continuent de chanter entre chaque jet de grenades lacrymogènes qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas l'intention de rentrer chez eux.
Merci Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. À Paris, pas d'incident majeur, les gilets jaunes étaient 1300 à 14h dans la capitale selon le ministère de l'Intérieur. 7500 dans toute la France, c'est un peu plus que la semaine dernière.
Une centaine de professeurs et de parents d'élèves réunis au pied de la basilique Saint-Denis, près de Paris, ce matin.
Manifestation contre la loi Blanquer, mais aussi pour dénoncer l'agression d'une enseignante de Saint-Denis. Jeudi, un élève de 15 ans a fait irruption dans la salle de classe et lui a tiré dessus avec un pistolet à billes. Il a été interpellé. L'enseignante n'a pas été blessée, mais elle est bien entendu choquée. Julien, un de ses collègues, a tenu à lui apporter son soutien.
On est complètement dépassé par ce qui se passe. Ça fait des années et des années que les quartiers ils sont laissés à l'abandon. Notre collège, les briques tombent. Il y a des endroits du collège qui sont retenus par des barrières parce qu'il y a des briques, ça peut tomber sur la tête de n'importe qui. Des départs de feu, des élèves qui urinent dans les couloirs, des élèves qui claquent les portes sur des doigts d'élèves. Il y a du danger, mais on ne va pas s'arrêter au danger. En fait, ce qui ne va pas clairement, c'est que ces élèves-là sont super. Il nous faut plus de moyens pour que ces élèves-là deviennent l'avenir de la France. Parce qu'ils font partie de notre République et il faut vraiment plus de moyens pour eux. Et pour nous, pour éviter qu'il y ait des dangers comme ça. Un élève qui rentre dans l'établissement, c'est toutes les semaines.
Julien au micro Europe 1 de Yasmina Katou. En Ardèche, plus de 2000 personnes, élus et syndicats, ont marché cet après-midi pour sauver leur usine de pièces pour moteurs diesel. Le site Bosch-Donnel-Château près de Rodez est menacé de fermeture. Après plusieurs années de difficultés, 1300 postes sont sur la sellette.
Europe 1. Après la pub, arrêtons de donner à manger aux cygnes au bord des lacs, ça peut les tuer. La Ligue de protection des oiseaux tire la sonnette d'alarme.
Il est 19h08, la suite du journal sur Europe 1, Chanel Petit, Philippe Vandel.
Demain matin, dimanche, vous comptez peut-être vous promener au bord d'un lac ou d'un étang et nourrir des cygnes avec un peu de pain. De grâce, ne le faites plus.
Oui, parce que près de Strasbourg, une trentaine d'oiseaux ont été retrouvés morts sur le canal de Lille le mois dernier. Une hécatombe due au pain donné par les promeneurs selon les autopsies pratiquées, car oui, les oiseaux sont végétariens. Alors si vous donnez à manger aux cygnes, ça part certainement d'une bonne intention, mais il faudrait changer nos habitudes. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, Charlotte Bechler.
Et il ne faut pas aller bien loin pour trouver les coupables. Sur les quais de Strasbourg, au bord de l'eau, Pascal vient de jeter des croûtons de pain.
On se dit qu'ils n'ont peut-être pas à manger, qu'ils n'arrivent pas à trouver à manger, donc on leur donne à manger, nous.
Mais même si c'est mignon, leur donner du pain, c'est loin d'être une bonne action, alerte Camille à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
Ça part généralement d'une intention de bien faire. Ils sont très attirés quand on leur donne du pain. Mais on peut comparer ça en fait au fait de nourrir des enfants avec que des bonbons. Ils adorent ça, mais tout le monde sait que c'est mauvais pour eux.
Mauvais au point de les tuer, le patron de la LPO, Christian Braun, en veut pour preuve la trentaine de cygnes retrouvés morts ces dernières semaines.
Le pain contient un certain nombre de substances comme le gluten, du sel, et donc c'est des animaux qui ne sont pas adaptés pour digérer ce genre d'aliments. En plus, le pain trempé dans l'eau développe d'autres problématiques, dont notamment la prolifération de bactéries mortelles dans certains cas.
Le bon régime alimentaire pour ces oiseaux, les épluchures de légumes, un nouveau réflexe qu'a pris Marina à chaque balade.
Quand il faisait très froid en hiver, j'achetais au marché les aubergines, les concombres et tout ça pour leur donner. Et là maintenant, ce sont juste les épluchures, mais voilà.
Pour changer les mauvaises habitudes, des panneaux avec des photos d'oiseaux malades vont être installés. Et ce rappel, en leur donnant du pain, vous risquez 450 euros d'amende. Strasbourg, Charlotte Bechler, Europe 1.
Une grande voix d'Europe 1 s'est éteinte cette nuit.
Hubert, animateur de la célèbre émission Salut les copains dans les années 60. Les plus grands noms du showbiz se sont succédés à son micro. Il est parti à l'âge de 81 ans à l'hôpital Pompidou à Paris où il était traité depuis plusieurs mois. Un homme aux qualités exceptionnelles, souligne son ex-collègue et ami François Divot.
Hubert, si vous voulez, c'était la facilité. Il avait un sens de la répartie, un humour exceptionnel. Et c'est pour ça qu'à l'époque où la radio, en fait, était un média d'autant plus important qu'il y avait peu de chaînes de radio, ça a été une immense vedette, comme on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé à Europe, tout jeune débutant, à 18 ans, pour une émission qui s'appelait Radio 2 sur Europe 1, Hubert était la vedette. Et c'est là où je l'ai connu et où il a été exceptionnel, parce que le débutant totalement inconnu que j'étais a été accueilli par lui avec une bienveillance, une gentillesse difficilement imaginable. Et on ne s'est jamais perdu de vue. Voilà. Donc moi, Hubert, c'était mon ami, mon grand frère et puis un modèle professionnel, quoi, évidemment.
François Divot, interrogé par Pierre Herbulot. Et puis ça peut vous intéresser, les astronomes font appel au public pour baptiser une planète découverte en 2007 aux confins du système solaire. Pour l'instant, elle porte le nom peu gracieux de 22-50-88-2007-OR10.
Ah,
alors vous avez le choix entre Gong Gong, Hall et Vili. Le vote est ouvert sur Internet jusqu'au 10 mai.
Elle aurait pu s'appeler Soisante. C'était le journal de Chanel Petit. Merci beaucoup Chanel.
Europe 1, 19h11.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Demain, on prend les mêmes et on recommence.
Et oui, attention au froid encore et au gelé. Je pense surtout aux cultures avec moins 3, 0 degrés de la Normandie au centre de la France jusqu'aux vallées alpines et 1 à 5 degrés ailleurs. L'après-midi, il fera frais au nord, 9 à 13, annoncé par Météo France. Des côtes de la Manche à la Loire, jusqu'en Auvergne, jusqu'en Rhône-Alpes. Les valeurs qui sont plus conformes au normal de saison entre la vallée de la Garonne et le littoral méditerranéen avec 15 à 20 degrés. Côté ciel, excepté un risque d'averses orageuses, toujours du sud des Alpes à la Corse et quelques gouttes ou flocons d'ailleurs demain matin sur le Grand Est et le Finistère en Bretagne. Pour la pluie évidemment, pas pour la neige. Il fera beau partout, même si le ciel aura tendance à se voiler sur l'Atlantique avec le rapprochement d'une petite perturbation.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Jean-François Pérez, bonsoir.
Bonsoir.
Du foot tout d'abord et l'OM qui entretient le rêve.
Oui, c'était sans doute la dernière chance de continuer à justement entretenir ce rêve de Ligue des Champions, surtout après la défaite de Lyon hier soir à Nantes. Les Marseillais en ont profité, mais que ce fut dur Yann Terrou.
Oui, Marseille s'impose dans la douleur, victoire 2 buts à 1 face au Nîmes Olympique. On a souffert jusqu'au bout côté marseillais, car dans les dernières secondes, eh bien, l'arbitre a dans un premier temps accordé un pénalty au Nîmes Olympique sur peut-être une main en fait, de Bounassar. Examen de la vidéo, le pénalty est refusé, on en reste là 2 buts à 1. C'est Valère Germain qui ouvre le score, Luis Gustavo double la mise, mais Teguy Savanier marque le but du Nîmes Olympique. Marseille revient à 5 points de l'Olympique Lyonnais. Victoire 2 buts à 1 face à Nîmes.
Voilà pour l'OM. Attention à Saint-Etienne. L'actuel quatrième, ce n'est pas à vous que je vais la prendre, Philippe. Saint-Etienne qui recevra Bordeaux demain et qui pourrait revenir à 3 points des Lyonnais. Lyon qui va devoir trouver un successeur à Bruno Genesio. C'est la grande nouvelle de l'après-midi. L'entraîneur de l'OL quittera son poste en fin de saison après 3 ans et demi passés à la tête de l'OL. Le technicien a souhaité officialiser son départ pour apaiser un climat tendu aussi bien dans le vestiaire que dans les tribunes qui a réclamé sa démission. Dans moins d'une heure. Les matchs, Caen-Angers, Strasbourg-Guingamp, Monaco-Reims, le tout bien sûr dans Europe 1 Sport avec Lionel Rosso. Et puis demain peut-être enfin le titre pour le Paris Saint-Germain qui va à Lille. Petit mot de foot féminin, choc au sommet ce soir du championnat de D1. Lyon-PSG, c'est à 20h45, on y sera. Les gagnantes seront sacrées championnes de France, ça vous fait rire?
Oui, ça me fait rire parce qu'il y a Lyon qui peut gagner aussi.
Ça peut
se passer des psychodrames. De la boxe à présent, avec un combat pas comme les autres ce soir à Royan.
Oui, pour la première fois de l'histoire, une boxeuse iranienne sera sur le ring pour un combat officiel. Elle s'appelle Sadaf Kadem. Elle sera opposée à la française Anne Chauvin. L'idée vient du champion du monde de boxe français d'origine iranienne, Mayar Monchipour. Il se félicite de l'impact de l'événement en Iran, où la boxe féminine est interdite.
Elle va être diffusée en direct en Iran par une chaîne. Tout le monde va la voir, tout le monde va être fier d'elle. Elle va devenir un symbole. C'est un symbole, Sadaf. J'ai adoré une phrase qu'elle a dite, c'est combattre tout ce qui est interdit sans raison. C'est pas là juste ça, c'est d'une manière générale. Donc c'est vraiment une fille, mais comme plein d'autres, est prise de liberté.
Mayar Monchipour au micro de Simon Rubin. Simon qui sera à Royan ce soir pour vivre ce moment particulier. On y reviendra demain sur Europe 1.
Le reste de l'actualité en bref avec d'abord de la Formule 1 pour le 1000e Grand Prix de l'histoire.
Et oui, et la pole position est pour un Finlandais, Valtteri Bottas sur sa Mercedes qui devance d'un souffle son coéquipier Lewis Hamilton. En deuxième ligne, les Ferrari de Sébastien Vettel et de Charles Leclerc. Le départ demain matin à 8h10 du rugby avec les premiers matchs de la 22e journée de Top 14. Castres s'impose à Bordeaux-Bègles 16 à 12. Demain, ce sera le choc Toulouse, le leader qui reçoit Clermont, son dauphin. Et puis un dernier mot pour vous dire qu'à Marseille, on est souvent à jamais les premiers. Eh bien, sachez qu'il y a quelques minutes, les water-poloistes du Cercle des nageurs de Marseille sont devenus les premiers en France à conquérir une Coupe d'Europe. C'était contre les Monténégrins de Herceg Novi. Voilà.
Merci beaucoup. C'était le journal des sports de Jean-François Pérez. Merci Jean-François.
Europe 1.
À suivre, de plus en plus de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. Désormais, une tous les deux jours en France. C'est le combat de ma prochaine invitée, maître Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris et avocate également de Jacqueline Sauvage. À tout de suite.
19h17, on retrouve Philippe Mandel pour la suite de votre grand journal du soir.
Cette mort aurait-elle pu être évitée? Samedi dernier, les gendarmes du Var sont appelés au domicile d'un couple où le mari menace son épouse Dalila, 51 ans. Il la menace avec un couteau. À leur arrivée, il la découvre réfugiée chez un voisin. Le mari a quitté les lieux. Les gendarmes restent une heure sur place avec elle. Ils lui conseillent d'aller se mettre en sécurité chez des proches. D'accord, dit-elle, j'enroupe mes affaires et je m'en vais. Les gendarmes repartent. À 21h, il la rappelle pour prendre des nouvelles. Elle n'est toujours pas partie et le mari est revenu avec une arme. Les gendarmes retournent aussitôt sur place et ils arrivent pour constater son décès, tué par arme à feu. Bonsoir Nathalie Tomasini.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée dans les violences intraconjugales, notamment, je l'ai dit, avocate de Jacqueline Sauvage. L'histoire de Dalila est exemplaire, elle a été entendue, les gendarmes sont intervenus deux fois et pourtant elle est morte. Où se situe le problème ?
Alors vous avez raison, c'est un drame qui scandalise encore une fois. Aujourd'hui en 2019, nous en sommes au 43e féminicide, rien n'y fait. Quelles que soient les mesures que l'on prenne, à titre préventif ou coercitif, les chiffres sont là. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est votre question.
Ouais.
Ce qui ne va
pas... Parce que, je veux dire, le sens de ma question, c'est que pendant longtemps, on a dit qu'il y avait un problème d'écoute des femmes battues, menacées, soit par les gendarmes, soit dans les commissariats, par les policiers. Des progrès ont été faits et la preuve que non, ça ne change rien. Ou est-ce que ces progrès-là ne changent pas la vie quotidienne, malheureusement ?
Oui, parce que le ton de la justice n'est pas le ton qui est le nôtre. Lorsque les gendarmes vont intervenir, cette femme, il me semble, était en train de partir.
Ouais.
L'homme avait été placé sous contrôle judiciaire, qui est une mesure qui ne peut pas être efficace en matière de violence conjugale.
Je vous donne raison, il avait été mis en placement judiciaire, il était placé en garde à vue depuis mars, il devait être jugé en août. Et là, on se dit, il y a un problème de justice, ou pas ?
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, le process de la justice est le suivant. Ces hommes-là comparaissent immédiatement devant des magistrats qui décident justement de mesures telles que le contrôle judiciaire pour ensuite renvoyer pour le jugement au fond à une date ultérieure. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est tout le problème entre ces deux dates. Là, il apparaît qu'il y a eu un dysfonctionnement de la part des gendarmes. On ne laisse pas une femme récupérer ses vêtements ou ses effets personnels, dont le logement familial qui est connu, évidemment, de l'auteur des violences. Le contrôle judiciaire n'interdit jamais un homme violent de s'approcher de sa victime. Le contrôle judiciaire, ça veut dire quoi ? Le contrôle judiciaire, c'est simplement une interdiction de rentrer dans le périmètre qui est le lieu d'habitation. Mais ces hommes-là, on le sait, ils n'écoutent rien. Donc il n'y a pas coercition véritable. C'est simplement un contrôle judiciaire. Il faut le respecter. C'est tout. Alors qu'il y a d'autres mesures, et peut-être qu'on va en parler, il y a d'autres mesures beaucoup plus radicales.
Mais avant cela, avant de parler des mesures que vous préconisez, Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, avait demandé à la justice de durcir le ton.
Alors écoutez...
Mais ça veut dire quoi, durcir le ton ?
Moi, je trouve ça, j'allais dire, scandaleux de parler de durcir le ton. Marlène Schiappa, que je sache, on n'est pas dans une cour de récréation où la maîtresse d'école hausse le ton parce que les élèves n'ont pas correctement appliqué les consignes. On n'en est plus là. Hausser le ton, ça ne veut rien dire. Et c'est relativement indécent de parler de hausser le ton lorsqu'on en est au 43e féminicide en France.
Je vais parler d'un autre cas et après j'écouterai vos propositions. En Corse, il y a une femme de 35 ans, mère de deux enfants, Julie Douib, qui a été tuée par son ex alors qu'elle avait déjà déposé 5 plaintes contre lui. Donc là, je suis obligée de donner raison à ce que vous venez de dire.
Complètement. C'est exactement la même histoire. Vous voyez bien que même, et vous l'avez rappelé, lorsque ces femmes arrivent à déposer plainte, ce qui est déjà encore compliqué en 2019, eh bien, rien n'y fait. Parce qu'il faut prendre des mesures radicales.
Lesquelles, selon
vous ? Lesquelles ? Bracelets électroniques. Dès qu'il y a une suspicion de violence conjugale et que justement l'auteur comparaît immédiatement, plutôt qu'un contrôle judiciaire qui ne veut rien dire, bracelet électronique. Parce que lorsqu'il va finalement enfreindre le périmètre dans lequel il doit être enfermé, ça va sonner de partout et l'alerte va être donnée immédiatement. Il ne pourra pas s'approcher de cette femme. Bracelet électronique, et on peut même aller plus loin. Moi, je serai partisane pour même de la détention provisoire immédiate dans l'attente du jugement au fond. Comme cela, là, on pourra parler véritablement de protection de ces femmes violentées.
Le bracelet électronique, c'est ce qui a été fait en Espagne, parce qu'il y avait une vague de féminicide absolument terrible au début des années 2000, et ça a porté ses fruits.
complètement. Alors maintenant, il va falloir voir ce que ça donne. Mais en tout état de cause, c'est une très bonne mesure. Et l'Espagne est très en avance par rapport à la France. Parce que non seulement ils ont mis en place des bracelets électroniques, mais également des brigades anti-violence conjugale et également des abris d'urgence pour ces femmes qui sont violentées.
Si je vous suis vraiment, Nathalie Tomasini, c'est que en fait, vous ne dites pas que la loi est mal appliquée, c'est que la loi est mal conçue.
La loi n'est pas... en fait,
c'est-à-dire que
même
si
pas...
on renvoie quelqu'un chez lui et qu'on le laisse libre pendant 3 mois dans l'attente de son jugement, pendant 3 mois, il peut faire ce qu'il veut.
Voilà, c'est même pas la loi, ce sont les outils juridiques. Et je dirais que les outils juridiques sont pas efficaces, ne sont pas à la hauteur du fléau, clairement en France. Mais j'irai au-delà de ça. Je pense tout simplement qu'ils ne sont pas à la hauteur du fléau parce qu'il n'y a pas de volonté politique.
Comment ça, il n'y a pas de volonté politique ? Alors, pardonnez-moi, je pense que tous les hommes et les femmes politiques de l'opposition, de la majorité qui vous entendent, sont d'accord avec vous et disent on ne peut pas laisser passer ça. Je pense que ça révulse tout le monde.
Vous ne croyez pas que c'est un peu tard ? On en est au 5e plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est justement où je voulais en venir. Je pense qu'il y a une volonté politique, mais qu'il n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je suis très intéressée par votre avis sur la question.
Non, moi je dis et je persiste et je signe, il n'y a pas de volonté politique. Ce n'est pas parce qu'on évoque des mesures dans des plans triennaux, donc depuis 2005, vous vous rendez compte, ça fait 15 ans qu'on parle de lutte contre les violences faites aux femmes. On parle de formation aussi depuis 15 ans. Qu'en est-il ? C'est, pour moi, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, il s'agit d'une escroquerie. En réalité, il n'y a pas de formation encore efficace. Et surtout, le nerf de la guerre, quand on parle de priorité, quand on parle de cause du quinquennat, la lutte contre les violences faites aux femmes, et qu'on n'affaire pas des budgets conséquents à la lutte contre ce fléau, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de véritable intention et volonté politique. Et je voudrais insister sur le budget. En novembre 2018, le Conseil à l'égalité, le Haut Conseil à l'égalité homme-femme a évoqué la nécessité d'un budget pour lutter contre le fléau des violences conjugales avec une fourchette basse à 500 millions et une fourchette haute à 1 milliard. Vous savez quel est le budget aujourd'hui ?
Dites-le.
Le budget, il est de 76 millions au lieu de 500 millions fourchette basse.
Donc ça a été énormément divisé par 8, je fais ça de tête. Votre combat, Nathalie Tomasini, ne s'arrête pas aux tribunaux. Vous allez présenter une liste féministe aux élections européennes. Ça va s'appeler à voix égale. Dans quel but ? Vous voulez vraiment vous faire élire ou c'est une manière de porter sur le débat national en profitant de ce biais pour vous faire entendre ?
Alors, j'allais dire les deux. Ma stratégie, évidemment, elle n'est pas à court terme, elle est à moyen, voire à long terme, pour pouvoir effectivement me faire entendre. Mais je vais vous dire aussi, pourquoi pas ne pas être élue ? Parce que l'égalité homme-femme, c'est le seul moyen d'éradiquer le fléau des violences conjugales. Parce que la violence, c'est un symptôme d'une société qui est malade, qui n'a plus de valeurs importantes et notamment les valeurs d'égalité, de justice sociale.
Merci beaucoup Nathalie Tomasini, avocate spécialisée dans les violences intraconjugales. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, notre page culture comme chaque samedi, le cinéma avec Diane Chinouda, Nicolas Caro, Vanessa Zah et notre invité Étienne Chatillez. Tanguy est de retour à la maison, ça cartonne dans les salles, vous ne bougez pas d'Europe 1, tout de suite.
Dans une minute, il sera 19h30, on va parler culture, Philippe Vandel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Zah, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Diane Chinouda, bonsoir Diane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et Nicolas Caro et ses livres, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et notre invité Étienne Chatillez, bonsoir.
Bonsoir.
Réalisateur de pub à vos débuts, devenu une sorte d'icône du cinéma, je vais citer « La vie est un long fleuve tranquille, le bonheur est dans le pré » et surtout, vous avez inventé des titres qui sont passés dans le langage courant, Tati Daniel, Tanguy, ou alors qui sont devenus des archétypes, les Groseilles et le Quénois. Et là, vous sortez un nouveau long métrage après l'Oncle Charles il y a 7 ans, ça s'appelle « Tanguy, le retour » avec le même trio d'acteurs, Sabine Azéma, André Dussolier et Eric Berger. Vous savez qui c'est Eric Berger ou pas ?
Bah c'est Tanguy.
Exactement. C'était en 2001, vous aviez fait 4,3 millions d'entrées, le film s'appelle « Tanguy, le retour ». Pourquoi pas Tanguy 2 ?
Parce que c'est un film d'horreur. Donc on prend un titre de film d'horreur, Le Retour. C'est horrible.
En quoi c'est un film d'horreur ?
C'est une horreur. Ce que vont vivre les parents est une horreur. Les pauvres cocos.
Alors,
ils n'arrivent pas à s'en débarrasser.
Tanguy a maintenant 44 ans.
Ouais.
Deux questions. Oh, Fedian Chenouda, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que raconte le film?
Qu'est-ce qu'il fout là? Il a été planté par sa femme. Il habitait Pékin depuis 16 ans.
Ouais.
Maman est allée voir ailleurs. Donc, il a pris sa fille de 16 ans sous le bras.
Ouais.
Il n'a pas téléphoné à ses parents, rien. Il a quitté Pékin et il se pointe en sonnant à l'interphone des parents qui vivent une existence tout à fait paisible et agréable depuis longtemps et qui ont même oublié que leur fils était à ce point malade mental.
Vous le voyez comme un psychopathe?
Exactement.
Parce qu'il y a un glissement de sang sur le terme Tanguy. Les gens disent un Tanguy, ouais, c'est les gens qui quittent pas le domicile familial à cause de soucis d'argent. Exactement. C'est pas ça du tout votre Tanguy.
Ah non, 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 mais c'est ça, c'est drôle, il y a une confusion. Tanguy, lui, il n'aime rien plus au monde que d'être chez ses parents et si possible avec encore la génération d'au-dessus.
Ouais.
Donc il avait réussi à faire ça en Chine. Et puis là, bah, il revient à la maison, il est bien détruit parce qu'il souffre beaucoup et ses parents, qui sont de bons parents, je tiens à le signaler, vont tout faire pour lui redonner le moral en ayant totalement oublié qu'ils avaient le vrai Tanguy, l'affreux, l'enfoiré, à la baraque.
Vous avez des enfants vous-même?
Ouais.
Quel âge? Ouais.
Oui, oui. Ah ben moi,
enfin, j'aimerais savoir à quel âge ils sont partis, voilà.
Eh ben moi, j'ai un fils de 28 ans qui est parti il y a 15 jours.
Non, c'est pas vrai.
Ah,
c'est... Donc c'était il y a 15 jours. Ça veut dire qu'à 27 ans, 11 mois et 2 semaines, il était encore chez vous.
Mais dans le premier Tanguy, ouais, il avait 28 ans.
Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Et puis le scénariste, Laurent Chouchan, lui, il a un fils de 29 ans qui est revenu il y a 15 jours.
C'est pas possible, pourquoi?
Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
Pourquoi il est revenu son fils?
Parce qu'il avait envie de reviendre.
Non, non, il aurait pu se faire larguer par sa nana, comme dans le film.
Non, je sais plus la raison pour laquelle il est revenu, mais en tous les cas, il est chez papa.
Alors, ils ont pas de problème d'argent, les parents. Ils ont un salon, une cuisine, on pourrait faire un squash. Pourquoi ce choix de, justement, de situer l'histoire dans un milieu favorisé?
Parce que si ça avait été la famille Pierre à Feu, c'était moins drôle qu'ils se comportent ensuite comme des horreurs. Donc ouais, là, c'est des gens cultivés, fins, intelligents. Donc le choc est plus grand, à mon sens.
Vous avez quel âge, je peux vous demander ça?
Bien sûr, 66.
66. Et comment ça va, votre prostate?
Très mal.
C'est pas vrai, je m'attendais pas à cette réponse. Je veux dire, pourquoi je pose la question? Parce que Dussolier, dans le film, a des problèmes avec sa prostate.
Bah ouais.
Et je me suis dit, pourquoi il y a ça dans le film? Je me suis dit, ça se trouve, c'est Chatillez qui raconte sa vie.
Est-ce que j'ai un problème de prostate? Est-ce que j'ai un problème de mémoire ou un problème d'arthrose? Peut-être j'ai les trois, peut-être j'ai qu'un, peut-être j'en ai zéro, va savoir. Et justement, on les retrouve 17 ans après, on ne peut pas faire l'impasse sur les 17 ans qui ont passé. À défaut d'en pleurer, rions un coup.
Pourquoi vous avez attendu 7 ans pour refaire un film? C'était après l'oncle Charles.
Parce que j'ai eu des projets qui n'ont pas vu le jour, tout simplement.
Comment ça se fait?
Comment
est foutu le cinéma français pour qu'un type comme vous, qui avait fait autant de cartons, vous galériez pour monter un projet?
Bah, j'ai fait des bides aussi, donc...
Non, mais je voulais savoir, parce qu'il y a tellement de films qui sortent avec des gars qui n'ont rien fait et dont le nom est oublié 6 mois plus tard. Ouais. Et je me dis, comment se fait-il qu'un type comme Chatillez, qui a fait bim, 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 4 cartons d'affilée...
Et plof, plof, plof.
Ouais.
Et
c'est les plof, plof qui vous ont empêché de refaire Bim.
J'ai plein de choses qui m'ont empêché de refaire Bim. Mais bon, c'est pas très important. Hein. Mais
vous avez dit, Étienne Chatillez,
ouais,
Tanguy,
j'ai dit encore une connerie.
Tanguy, le retour, n'a pas été pensé pour faire de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bah, je veux dire par là que c'est pas une intention commerçante. Moi, j'y suis allé uniquement parce que j'ai trouvé une histoire qui m'a plu. C'est pas... Moi, j'avais jamais pensé à faire une suite. Puis il y a des producteurs que je ne connaissais pas qui m'ont appelé par l'intermédiaire d'André Dussolier, qui m'ont dit, tiens, on reverrait bien les personnages. Donc je me suis penché sur le problème et puis j'ai trouvé des choses qui m'ont fait rire. Donc j'ai dit, ok, on y va.
L'idée est des producteurs.
Le scénario est de moi, hein,
bien sûr,
avec Laurent Chouchan.
Non mais faire le retour de Tanguy, c'est pas de vous.
Non, moi il était fait, il était plié. Et en même temps, ce qui était bien, c'est qu'il y avait 17 ans qui avaient passé. Donc il n'y avait justement pas trop de relents, de conso.
Mais en revanche, si je suis bien informé, vous avez dit non à refaire... La vie est dans le fleuve tranquille 2, Le bonheur est dans le pré 2.
J'ai jamais entendu parler du bonheur est dans le pré 2, personnellement.
Ah bah c'est marrant, je l'ai lu dans un papier que j'ai pas ici malheureusement, mais je l'ai lu.
La vie est un long fleuve tranquille, il voulait faire d'un feuilleton et tout ça. Il était suffisamment joli pour qu'on ne l'esquinte pas et qu'il reste tel quel. Mais là, il y avait un personnage tout à fait particulier, 17 ans avaient passé, et puis il y avait aussi le couple que forment Sabine Azéma et André Dussolier, qui sont des gens qui ont passé déjà 50 ans ensemble, et qui sont toujours contents d'être ensemble. C'est un fait suffisamment rare pour s'attacher un peu à eux. Alors d'un côté, il y a l'enfoiré, de l'autre côté, il y a ce couple merveilleux.
L'enfoiré, c'est Tanguy.
Ah bah ça, c'est sûr.
Un mot sur Eric Berger, donc, qui joue Tanguy. Vous avez dit que dans la vraie vie, il ne ressemble pas du tout à Tanguy.
Bah oui.
C'est la base des métiers de comédien, mais quand même, moi, je ne m'attendais pas à ça. Vous avez dit, il est rockabilly dans la vraie vie.
Tout à fait.
C'est pas vrai. Mais il a une banane, une crête et il s'habille comme Elvis.
Pratiquement. Effectivement, comme on ne connaissait pas bien Eric à la sortie du film en 2001, tout le monde a cru qu'on avait trouvé quelqu'un qui était parfaitement le personnage.
Non, ouais.
C'est un rôle de composition. Et je crois que Tanguy doit beaucoup à l'interprétation d'Eric.
Votre chef-op, c'est le chef-op du petit Quinquin.
Ouais.
Et vous avez dit, c'est la seule série que je trouve intéressante.
Tout à fait vrai. Je déteste les séries. Il dit des horreurs, ce garçon. Je déteste les séries.
Comment ça se fait?
Parce que les séries, c'est de la conso, je trouve. C'est des vices sans fin. Ça m'ennuie, je m'endors devant, moi.
Vous endormez dès le premier épisode parce que c'est mal construit ou c'est la longueur qui vous emmerde?
C'est super bien écrit, c'est super bien joué, c'est super bien filmé, mais j'en ai strictement rien à foutre. C'est de la conso. J'ai horreur de la conso.
Comment ça, c'est de la conso?
Ben
quand
oui,
quelque chose
marre. Il n'y a pas d'auteur, il y a des auteurs, mais il n'y a pas un auteur, il n'y a pas de vision. Ça m'ennuie terriblement. Je sais, je me fous tout le monde à dos,
non,
je m'en fous.
Moi, je suis comme vous, je ne les regarde pas. Ni je les trouve bonnes, ni je les trouve mauvaises, je ne les regarde pas, je n'ai pas le temps. Mais c'est votre propos qui m'intéresse, parce que quand vous dites c'est de la conso, il y a une équipe, quand on fait un film, c'est une équipe. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez un scénariste, un chef-op, vous avez une monteuse.
Bien sûr.
Il y a toute une équipe, il y a des producteurs.
Non, mais il y a une réponse beaucoup plus pacifiste, qui est celle des frères Cohen, qui disent on a déjà du mal à trouver des idées pour une heure et demie, il faudrait voir qu'on arrive pour 7 heures. Voilà, alors je peux répondre ça, c'est moins agressif peut-être.
Ah non, mais moi je trouve pas ça du tout agressif, c'est votre propos qui m'intéresse. Donc vous regardez que Le Petit Quinquin.
Oui, parce que c'est une série qui soude des séries, puis là il y a un univers, il y a un auteur.
D'accord. Si je suis bien informé, vous travaillez déjà sur un nouveau projet.
Oui.
Ça va être quelque chose de complètement nouveau ou c'est un troisième Tanguy?
Non, c'est quelque chose de nouveau.
Mais une satire sociale encore ou...
On parle jamais de ce qu'on va faire parce que c'est très fragile les choses. C'est comme des truffes dans une boîte, si vous ouvrez, il y a l'odeur qui se barre. Alors moi, j'ouvre le moins possible.
Vous avez raison.
Dans le dossier de presse, vous dites à propos de ce film, et c'est général à votre travail, Étienne Chatillez, vous dites que vous voulez parler de l'époque et du pays dans lequel je vis, de ses habitants.
Ouais.
Qu'est-ce que Tanguy dit de la France? Qu'est-ce qu'il dit de notre pays?
C'est les liens familiaux, c'est à travers un exemple extrême. Je pense qu'on peut retrouver un peu les comportements des gens dans une famille, la place des enfants, de la mère, du père. Et puis surtout, ce qui m'amuse, moi, c'est qu'on n'a jamais le droit de dire du mal des enfants. Et là, par l'intermédiaire d'un film, on est tous d'accord. Tous les parents du monde ont adoré la chair de leur chair. Une minute par jour, ils ont envie de les buter. Et ça, on ne peut pas le dire, donc on le fait à travers un écran.
Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir envie de buter vos enfants?
Oh, bah bien évidemment. Et que celui qui dit non est un menteur.
Bah moi, je dis non.
Non.
Moi, je dis non. Moi, j'ai
deux enfants. Moi, j'adore mon fils.
Mais
il y a des jours où j'ai envie, mais de passer par la fenêtre, avec tout l'amour que j'ai pour lui.
Exactement.
Non, mais faut,
je crois
faut être lucide.
Universel. Oui.
Mais non,
voilà.
Lucide.
C'est
partout.
Universel.
Non, mais il y a un problème, là, Philippe. Vous n'avez jamais ressenti...
Jamais. Nicolas Caro non plus. Et il y a deux teams ici, dans ce studio. Chatillez, Vanessa Zah, Caro, Vandel. On se retrouve tout de suite après ça. L'arbitre, ça sera Diane Chénouda.
Il est précisément 19h39. On retrouve Philippe Vandel, ses chroniqueurs et son invité.
Suite de la demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Zah, Diane Chénouda, Nicolas Caro et notre invité Étienne Chatillez qui a déjà eu envie de buter ses enfants. Vanessa aussi, Caro et moi jamais. Diane Chénouda, d'un mot, qu'est-ce que vous en pensez?
Évidemment qu'on adore ses enfants. Mais il y a des moments où on a envie de les jeter par la fenêtre. C'est vrai, elle a raison, Vanessa. Je pense à des moments, mais évidemment qu'on le fait pas,
comme disait Dolto.
Bah oui, bien sûr. Voilà.
Vous expliquerez ça au juge.
Étienne Chatillez.
On n'est pas d'un bloc, on est multiples. Il y a des heures où on les adore, des heures où on les supporte plus. Et ils le savent très bien, ces petits cocos.
Vos films sont célèbres, puisqu'on parlait de ça, pour vos répliques cultes. La plus célèbre me fait rire, même presque 30 ans après. C'est lundi, c'est Ravioli. Est-ce que vous, ça vous fait encore rire ou est-ce que ça vous insupporte qu'on vous ressorte ça?
Oh, pas du tout, ça me... Non, parce que la rime qui est amusante, mais en fait, le but du jeu, c'était de dénoncer que chez les bourgeois, on bouffait mal.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était, on réchauffait des raviolis dans une casserole avec la boîte de conserve. Donc c'est lundi, c'est ravioli, et le ton est très enjoué et très gai, et ça résume très bien une situation.
J'aime beaucoup la manière que vous avez d'observer les gens, l'éthique de l'époque. Il y a beaucoup de séquences à table dans Tanguy le Retour.
Ouais.
À l'affiche actuellement, je ne l'ai pas encore dit, c'est en ce moment avec Dussolier et Sabine Azéma. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a eu un temps, Étienne Chatillez, où les gens n'osaient plus vous inviter à dîner parce qu'ils avaient peur de se retrouver caricaturés dans un de vos films?
Non, je ne sais pas du tout. Mais maintenant que si je regarde ça à brosse-poil, effectivement, je suis assez peu invité à bouffer. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la bonne bouffe. Et comme les gens cuisinent de la merde, je ne suis seulement pas des masses.
Ouais.
Non, mais enfin, le concept de cuisine américaine, c'est fait pour faire du pain de mie et barca. Alors, quand t'as la cuisine dans le salon, ça sent pas le bœuf mironton dans tout l'appartement, ils t'en font pas. Hein.
Ouais.
T'as le droit à une bonne pizza.
Venez chez moi, je vous ferai de la très bonne cuisine.
Avec plaisir. Laissez-moi votre adresse.
Allez-y, filez-vous vos 06. Diane Chénouda, tiens, vous avez pris la parole, vous la gardez. Vous nous emmenez sur l'île de Guernesey, cette île anglo-normande, où vous êtes allé pour la réouverture de la maison de Victor Hugo, entièrement rénovée.
Oui Philippe, après un an et demi de travaux, on peut à nouveau en effet découvrir cette maison de pierre. C'est la maison d'exil de Victor Hugo, mais sa maîtresse Juliette Drouet n'était pas loin. Elle vivait là, à deux pas de cette très belle demeure, sur les hauteurs, les collines de Guernesey, qui surplombent toute la baie. C'est vraiment magnifique, avec les rochers face à la mer, paysage romantique que Victor Hugo avait là sous les yeux, dans son exil qui a duré presque 15 ans, entre 1856 et 1870. Alors, il va vivre, Victor Hugo, dans cette maison qu'il s'achète après le succès des Contemplations, donc à la Hauteville House. C'est le nom de cette propriété qui va le rendre à l'écriture. C'est là que Victor Hugo écrit une partie de La Légende des siècles, quand même, et qu'il termine Les Misérables. Et alors, il va faire de sa maison un cocon, mais au sommet, il va faire construire une verrière ouverte sur le ciel et la mer. Et là, il va écrire notamment Les Travailleurs de la mer, évidemment en hommage à Guernesey. J'ai rencontré Marie, c'est l'arrière-arrière-petite-fille de l'écrivain.
Victor Hugo écrivait là, sur cette petite table, face à la mer. Et les jours de beau temps, il voyait la France. Et il écrivait debout. J'imagine qu'on a plus d'énergie quand on est debout qu'assis. Et les feuilles, il les posait sur ces bancs-là pour que l'encre sèche.
Et alors, on m'a même dit, figurez-vous, que Victor Hugo écrivait debout et entièrement nu face à la mer. Si, si, si.
Voyons.
Oui, oui. Dans les ce mouettes, lieu d'une grande inspiration pour le poète. Alors, il pleuvait sur Guernesey quand j'y suis allée. Et on peut s'imaginer, évidemment, un Hugo rêver, méditer, écrire face aux éléments.
Alors, ce qu'on découvre également, ce que vous m'avez dit avant, Diane, c'est le Victor Hugo décorateur, car il a tout conçu dans cette maison.
Oui, alors, on connaissait évidemment l'homme politique, le polémiste, épris de liberté, le militant contre la peine de mort, le poète, l'écrivain, évidemment. Mais on ne connaissait pas le génie d'Hugo décorateur. Eh bien, c'est ce qu'on découvre ici à Guernesey. Il n'a rien laissé au hasard. Chaque pièce est une création. Alors, c'est très chargé, c'est un peu étouffant. Écoutez Gérard Audinet, c'est le directeur de la maison de Victor Hugo.
Il n'y a plus un centimètre carré de libre qui n'est pas fait par Victor Hugo. Donc c'est une création totale dans la pièce et à chaque fois en variant, donc ça procède par assemblage, collage de boiseries, de tapisseries, de carreaux d'elfes, de soieries. Il assemble tout ça à chaque fois en variant parce qu'il n'aime pas se répéter. Donc dans chaque pièce, il nous raconte une histoire un peu différente, il varie les matériaux et à chaque fois, donc on est dans un univers complet recréé par Victor Hugo.
Alors tout a été restauré à l'identique, c'est merveilleux, avec les mêmes slogans républicains, les mêmes inscriptions gravées aux murs, aux parois, grâce aux photos anciennes et à la lecture évidemment des carnets et des agendas de Victor Hugo. Et puis ils ont même pu retrouver les mêmes tissus grâce aux artisans.
Et alors Diane, qui a financé tout ça ?
Alors la maison est depuis quelques années propriété de la ville de Paris.
C'est pas vrai ?
Si, si, si. Et la mère, Anne Hidalgo, absolument, bien c'est elle qui a demandé à François Pinault d'être le principal mécène. C'est lui qui a donné plus de 3,5 millions d'euros pour cette restauration. Et il nous dit pourquoi.
Victor Hugo, pour ce qu'il était, pour l'homme qu'il était, non seulement le grand écrivain, le grand poète, mais j'allais dire surtout le visionnaire qu'il a été, parce qu'il avait eu beaucoup de choses avant d'autres, le rebelle qu'il était, il s'est rebellé la peine de mort, il avait 25 ans, l'empathie qu'il avait, notamment envers les plus démunis, ça, il avait ce qui manque beaucoup aujourd'hui, quelquefois aux hommes politiques, lui il avait ça, c'était un grand bonhomme, et quand Anne Hidalgo m'a sollicité pour ça, j'ai dit oui tout de suite, et également pour Paris, la ville de Paris, parce que Victor Hugo, c'est Paris, c'est la France, c'est le monde.
Voilà, et c'est une œuvre en soi, cette maison. La visite à Guernesey vaut vraiment le détour, Philippe, pour la maison, pour ce patrimoine exceptionnel, et pour la beauté de l'île, évidemment, aussi.
Donc, la maison de Victor Hugo à Guernesey, entièrement restaurée, donc à voir sur l'île de Guernesey. Comment on y va ?
Alors, on y va en bateau de Saint-Malo, et puis, enfin notamment, ou alors il faut passer par l'Angleterre, si on veut prendre l'avion.
Moi, j'ai appelé Pinault, j'ai des problèmes d'infiltration chez moi. Il va s'en occuper.
Effectivement, mais là...
C'est décoré comment chez vous, Étienne Chatillez ?
Oh, c'est très très joli. C'est ravissant.
Non, parce que c'est très très sobre. Dans le film, c'est très très sobre, c'est très très beau. C'est un appartement qu'on aimerait tous avoir, l'appartement. Ouais, et je me dis que vous êtes absolument soigné. Même la chambre d'amis, c'est mieux que chez moi, presque.
Ouais, mais c'est ça l'avantage du cinéma, c'est qu'on fait des trucs un peu... idéal.
Ouais.
Et puis c'est un personnage dans le film L'Appartement, on y passe 80% du temps.
Ouais.
Donc il fallait non seulement, pas une circulation dans les pièces, mais une circulation d'une pièce à l'autre, ça avait été écrit de façon assez précise, donc il fallait retracer ça. Et en plus, comme on fait un décor, on a réussi à faire presque, comment dirais-je, une scène.
Ouais. À propos de décors, de scènes, une anecdote que j'ai lue sur vous, c'est vrai que quand vous montiez La vie est un long fleuve tranquille, pour ne pas être dérangé dans les salles de montage, vous aviez mis un écriteau sur la porte, c'est vrai ça ou pas ?
Oui, je mettais que des horreurs, je crois, oui.
Vous aviez mis un faux titre de film.
Ah oui, Soumise et vicieuse. Oui. Oui, parce que moi, je suis arrivé dans le cinéma, je venais de la publicité, j'avais donc très mauvaise presse, et je voyais bien à la cantine qu'ils nous écoutaient tous en nous regardant d'un mauvais œil. Donc, je disais toujours des horreurs à la monteuse en disant « Mais la scène où elle se fait sodomiser par le chien, il doit bien y avoir une autre prise. » Donc, comme ça, ils écoutaient plus.
Étienne Chatillaise est avec nous, mais on ne va pas du tout parler de ça. On va parler d'art, de voyage, de littérature et de cerveau. À tout de suite.
19h47, votre grand journal des soirs touche à sa fin. On retrouve Philippe Vandel.
Suite et fin de cette demi-heure culturelle avec notre invité Étienne Chatillaise, réalisateur de Tanguy, le retour. C'est sur tous les écrans avec le même trio d'acteurs que le premier Tanguy en 2001. Sabine Azéma, André Dussolier, Éric Berger. On lui souhaite le même succès. 4,3 millions d'entrées ce fut. Je me tourne vers vous, Nicolas Carreau. Oui. Et cette semaine, ça me fait plaisir, vous intéresser à notre cerveau.
Oui, avec le livre d'Albert Moukébert chez Alary Éditions. Ça s'appelle... Ben, je vous laisse lire le titre du livre, Philippe.
Je vais laisser lire à Étienne Chatillaise. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit là? C'est écrit en gros.
Votre cerveau vous joue des tours.
Voilà, vous avez lu le bon titre. Et pourtant, le mot cerveau est écrit à l'envers. Mais votre cerveau, justement, repère les lettres et les remet à l'endroit sans que vous ayez forcément
parce que les autres
conscience de ça. D'autant qu'il y a un dessin de cerveau juste en dessous. Et c'est de ça dont parle ce livre. Comment perçoit-on le monde et peut-on vraiment faire confiance à notre cerveau pour voir le réel? Le cerveau interprète sans arrêt le monde, mais parfois il invente. Il y a des exercices visuels dans le livre assez bluffants et on comprend pourquoi notre propre cerveau nous dupe. Il comble les vides, il interprète pour donner du sens. C'est pour ça que même si le mot cerveau est écrit à l'envers, notre cerveau a lui-même remis les lettres en place sans nous demander notre avis. Sinon, ça n'a simplement pas de sens. On peut même lire tout un texte où les lettres centrales sont dans le désordre, mais chaque mot garde sa première et dernière lettre. Le cerveau s'en fiche de l'orthographe et des fautes de frappe. Et l'exemple le plus extrême évoqué dans le livre, c'est l'agnosie visuelle.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un trouble très particulier qui fait que ceux qui en sont atteints captent la lumière, mais leur cerveau n'arrive plus à les transformer en images. Ils sont donc complètement aveugles. Mais le cerveau leur recrée un monde. Ce qui fait que ces gens-là ne voient rien, se cognent partout, mais sont persuadés, et ils sont de bonne foi, d'avoir une vue tout à fait normale.
Et à propos de ça, moi je souffre de prosopagnosie, c'est le même
mot.
Vous
ne connaissez pas les gens.
Je ne reconnais pas les visages. Mais ensuite, je me souviens de qui sont les gens et de leur nom. Donc vous nous dites, Nicolas, le cerveau invente un monde en fait.
Un peu, bon, même si le réel existe, hein, on n'est pas dans Matrix, mais il n'est peut-être pas tout à fait comme on a l'impression qu'il est. C'est pareil pour la mémoire. Philippe, est-ce que vous avez pris le bus ou le train dernièrement?
Le train, oui.
Bon, vous vous souvenez des gens qui étaient dedans? Vous pouvez les décrire?
Absolument pas.
Bon, alors le wagon était vide?
Non.
Bon, et ben, en fait, vous savez qu'il y avait des gens, vous les visualisez même un peu, mais en fait, votre cerveau a recréé les souvenirs. Vous ne pouvez pas vous souvenir du nombre de personnes, de ce qu'elles portaient, etc. Mais votre cerveau a créé une image mentale avec des archétypes de voyageurs. Mais ça, ça a des conséquences très concrètes. Albert Moukébert parle des recherches sur la mémoire. Aux États-Unis, notamment, des chercheurs ont démontré, pour aller vite, que lors d'un procès, les témoins oculaires pouvaient malgré eux réinventer les événements. Il y a aussi un exemple très simple. En toute bonne foi.
Ouais.
La reconnaissance de suspects, le line-up. On vous met, vous savez, cinq personnes qui se ressemblent et vous devez dire qui est le coupable. Eh bien, quand on ne place pas le coupable dans la ligne, les témoins en reconnaissent quand même un. Parce que pour eux, c'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Donc on invente inconsciemment.
Pourquoi celui qui a la tête la plus dégueulasse?
Mais non, je ne sais pas exactement qui on choisit. Il faut en choisir un, absolument. Il y a plein de concepts de ce genre dans ce livre, hyper vulgarisés. C'est parfois très sérieux, parfois très ludique, toujours accessible et on apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur notre cerveau en lisant ce livre.
Ça s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours ». C'est donc chez Alary Éditions. Merci Nicolas. Étienne Chatillaise, vous voulez dire quelque chose? J'avais l'impression que vous étiez en train de passer un casting avec des gens en ribambelle.
Non, mais vous disiez que vous reconnaissiez, vous ne souveniez pas des gens dans le train. Moi, je m'en souviens, par exemple.
Ah oui?
Ouais.
De tous les visages?
De tous les visages, mais je les regarde et je m'en souviens. Oui.
Et est-ce que vous vous souvenez, parce que c'est très très important le casting pour le métier que vous faites, est-ce que vous vous souvenez d'un comédien que vous auriez vu il y a 22 ans et vous rappelez, ou pas du tout?
Peut-être, peut-être pas. Alors là, franchement, le disque dur a de moins en moins de place, donc va savoir.
Mais qui êtes-vous d'ailleurs, monsieur?
Sortez de la chambre.
Qu'est-ce qu'on fait là? Appelez une infirmière.
Vanessa Zah, maintenant que je sais que vous avez parfois envie de passer vos enfants par la fenêtre, je ne vous verrai plus jamais comme avant. On va fuir le nuit familial, les enfants, les contraintes. Et vous nous avez sélectionné vos coups de cœur parmi les meilleurs hébergements insolites en France grâce au guide du routard.
Exactement, le guide du routard des meilleurs hébergements insolites qui vient de sortir pour les beaux jours. Alors je vous propose de commencer fort en prenant vraiment du recul. On prend de l'attitude, on troque nos enfants contre des vautours, des marmottes et des isards. On passe un week-end à tête dans les nuages pour une chambre avec vue à 2877 mètres d'altitude.
J'ai cru que c'était des euros.
Une idée d'où l'on pourrait aller ou pas. à 2877 mètres d'altitude, des marmottes, des isards.
C'est
Allée des Indices, c'est le plus haut musée d'Europe. On y monte depuis 1774 pour y analyser la pression atmosphérique.
Chamonix, Mont Blanc.
Pyrénées.
Ah, Pyrénées, là-haut, Pic du Midi.
Voilà, Pic du Midi, parce qu'en fait, on a la possibilité de passer la nuit au sommet, d'observer le ciel. Il est à nous, et là, rien qu'à nous, et tout entier. La Grande Ourse, la Voie Lactée,
oui,
et les autres
ça va, on
galaxies
les planètes, c'est bon.
Qu'on peut observer au télescope, les amis. Voilà. Et on dîne et on dort la tête dans les étoiles. C'est limité à 27 places, quand même. Ce qu'il y a de plus fort, en fait, dans ce week-end, c'est le coucher et le lever.
Ah. Du soleil. Ah, du soleil.
Mais oui, parce que quand la météo est au rendez-vous, le panorama est complètement dingue. On a vu à 300 km sur toute la chaîne des Pyrénées. On voit même la Catalogne, voilà, avec les montagnes rougissantes.
On aperçoit
et là,
Philippe
Vandel.
Non, Emmanuel Valls. Alors.
Emmanuel
oui.
Valls,
ah, oui, de l'autre côté. Exactement. Là, les enfants, évidemment, mais ils sont bien, bien loin. On reprend une bouffée d'air pur. Et quant aux activités, on a le choix entre les nuits étoilées avec des astrophysiciens et puis la randonnée vers le col du Tourmalet ou bien. Il y a encore de la neige, du ski.
Et dis donc, combien ça coûte?
Ça coûte 400 euros les 48 heures, tout compris.
Autre coup de cœur, Vanessa?
Alors là, on n'a plus la tête dans les nuages, on a les pieds dans l'eau, on troque les vautours contre les goélands. On a tous rêvé un jour de tout planter et d'aller s'isoler sur une île déserte. Le Routard en a sélectionné une qui est en effet assez chouette, car elle n'est pas très compliquée d'accès.
C'est pas vrai.
C'est l'île de Louette, dans la baie de Morlaix. On est à 300 mètres des côtes de Carantec, on est dans le Finistère. Et ce qui me plaît en plus là-bas, c'est qu'on vous laisse à dispo une embarcation pour pouvoir explorer la baie. Donc on est sur cette île, mais pas complètement prisonnier, on peut quand même bouger. Et donc, on loge dans la petite maison du gardien. On est au pied du phare, qui est toujours en activité. La déco, elle, est assez simple, mais la cuisine est équipée, donc il suffit d'apporter vos vivres. On pense au charbon de bois, parce qu'il y a un barbecue. Mais alors, on aime se doucher à l'eau froide, à l'extérieur, ça remet les idées en place. Et on apprécie surtout quelque chose d'unique, aller aux toilettes dans une ancienne soue à cochons.
Ah oui, vous appréciez.
Vous appréciez,
oui. Ouais. Ouais, un retour aux sources. Et puis comme l'île est déconseillée aux enfants, car les courants sont assez forts et qu'il y a des falaises, ça tombe bien, car on ne le voulait pas avec nous. Et si on a envie de visiter un peu le coin, il y a le château donc, du Toureau, qui a été agrandi, lui, par Vauban. C'est une sorte de mini Fort Boyard, mais dans le Finistère. Et puis avec les beaux jours, évidemment, on peut faire un peu de kayak ou de paddle.
Mais il y a un paradoxe là, Vanessa. Mmh. Si vous nous conseillez une île déserte,
oui,
et avec le talent qui est le vôtre, tout le monde va y aller, elle sera plus déserte.
Ah bah oui, mais il faut bien que je vous les donne, mes petits coups de cœur.
Bah oui, mais s'ils les mettent dans le Routard, ça sera plus désert. D'autres hébergements insolites dans ce guide,
oui,
qui valent le coup d'œil.
Il y a un combi Volkswagen pour explorer le lac d'Annecy.
Hein, tu parles d'une idée, tout
le
monde connaît.
Mais si, vous avez votre lit, votre combi, vous dormez comme ça face au lac. Un nid d'oiseaux dans le Béarn, une pêcherie avec son carrelet, moi je trouve ça sympa, ouais, sur la plage de Saint-Nazaire. Voilà, ça fourmille d'idées et il y a tous les prix surtout. Ça va de 50 euros à 500 euros.
Qu'est-ce qui vous tente, Étienne Châtillaise?
L'île déserte, ça c'est bien.
Ah, bah
moi,
merci.
Je trouve que c'est le seul luxe de notre époque, c'est aller là où il n'y a personne.
Ouais.
C'est plutôt
ça
que d'aller dans un spa.
Je suis tellement d'accord avec vous. Vous l'avez toujours nié dans les interviews, ce sera ma dernière question, mais là maintenant, il y a prescription.
Je dois avouer, enfin.
Ouais, elle n'est plus de ce monde, vous pouvez parler librement, Étienne Châtillaise. Est-il vrai que vous avez appelé Tati Daniel en hommage à l'épouse de François Mitterrand, Daniel Mitterrand?
Totalement faux. Le film, tout le monde a cru, et il y a une rumeur qui a commencé à courir, qu'on faisait un film de Tati Daniel et qui était quelque chose sur Daniel Mitterrand, ça n'avait strictement aucun rapport.
Comment vous choisissez les prénoms?
Non, alors Tati Daniel, j'étais en vacances en Guadeloupe avec des gens, et il y avait un type qui disait tout le temps, faut que j'aille chercher Tati Daniel. Et comme on l'entendait à longueur de journée, je me suis dit, bah tiens, elle va s'appeler Tati Daniel.
Et Tanguy, comment vous l'avez trouvé, le prénom?
D'abord, on connaissait Tanguy et la Verdure. Moi, je cherchais un prénom qui soit ni Pierre ni Laurent, c'est-à-dire qui soit quelque chose un tout petit peu plus...
Emblématique.
Et j'avais le fils d'une copine qui s'appelait Tanguy. Je lui ai demandé, ça t'ennuie si je prends? Elle m'a dit, pas du tout. Ben, elle le regrette encore.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Étienne Châtillaise, d'avoir été avec nous. Merci, Nicolas Carreau. Merci, Vanessa Zah.
Europe 1.
Et dans un instant, sur Europe, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Salut Lionel, bonsoir.
Salut Philippe, bonsoir.
Alors, il y a eu un psychodrame la semaine dernière chez les Olympiques à Lyon, à Marseille. Et maintenant, Marseille qui rit, Lyon qui pleure.
Fatal Olympique, Marseille a gagné en effet contre Nîmes 2-1. Et Bruno Genesio a annoncé, après une défaite contre Nantes hier, qu'il allait quitter le club à la fin de la saison.
Ah, il fait quand même la fin de saison.
On va en parler, évidemment, avec nos débats. Mais trois matchs aussi à suivre en direct en Ligue 1 ce soir.
Tu vas voir qu'il va nous dire qu'il va se barrer avant le Genesio. Lionel, on vous écoute. Nous, on se retrouve demain à 18h si elle se barre pas. Salut Marlène.
Salut Philippe.
Elle avait oublié qu'on pouvait parler avec un micro et que c'était le principe de la radio. Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1. Je vais te montrer le principe. À demain. Ciao.